Cube Radio. Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellet.
Nos pensées ce matin vont bien évidemment à nos snowbirds québécois qui sont peut-être un peu d'avance. On s'entend encore au mois d'août. Il y a déjà des Québécois qui se rendent déjà dans le Sunshine State aux États-Unis, en Floride. Mais en ce moment, le sunshine, hein, le beau soleil qui brille, il est nulle part à être vu en Floride en ce moment, alors que l'ouragan Idalia est en train de frapper les côtes floridiennes, arrive par l'ouest, des vents qui dépassent 200 km/h en ce moment. Ouragan là, de catégorie 4, c'est assez majeur, merci. On parle entre autres sur le bord des côtes en Floride là, de jusqu'à 16 pieds d'eau qui monterait sur les terres. Là. Au-delà du niveau de la mer, là, 16 pieds de montée. Ça, si quelqu'un est déjà allé en Floride, vous avez déjà vu à quel point on est proche de l'eau, hein? On veut être le plus près possible de la plage, mais à quel point ça va détruire des habitations, des commerces, des maisons. Bref, ça va être vraiment à suivre là, tout ce qui se passe là-bas en Floride. Ça donne une occasion aussi, si on a une petite pensée politique quand même, pour Ron DeSantis, qui, en pleine course à l'investiture républicaine en ce moment, doit gérer une crise puisqu'il est le gouverneur de la Floride. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de tirer son épingle du jeu autour de tout ça. Si on continue avec nos leaders politiques, mais revenons ici au Québec, nos collègues du bureau d'enquête qui ont recensé sur les réseaux sociaux quelques photos de la ministre Geneviève Guilbeault. La ministre Geneviève Guilbeault, qui je rappelle, a été ministre de la Sécurité publique, donc de la police, dans les dernières années, qui est maintenant la ministre également des Transports, qui s'occupe entre autres de faire respecter le code de la sécurité routière. Ce qui veut dire, règle générale, que quand on veut faire appliquer un code, on doit donner l'exemple. Mais malheureusement, Mme Guilbeault, dans les trois dernières années, on a trouvé 5 photos différentes sur ses réseaux sociaux. Une où elle est conductrice, 4 où elle est passagère, dans lesquelles, elle n'a pas de ceinture de sécurité. Elle est assise, elle prend une belle photo, toute souriante, Mme Guilbeault. Pas de ceinture. Pantoute, zéro zip, nada. Puis on voit dans ces cas-là qu'elle est très apparemment en déplacement dans le véhicule. Le problème, c'est que c'est pas comme... Tu as décidé de sortir dehors en pantalon ou en short quand il fait bien froid. C'est votre droit de sortir en short s'il fait froid. Par contre, si vous voulez embarquer dans un véhicule puis vous voulez pas mettre votre ceinture de sécurité, ça, c'est pas un choix que vous avez à faire. C'est complètement illégal de faire ça. C'est obligatoire, selon le code de sécurité routière, de porter sa ceinture dans le véhicule. En plus, en ce moment, on est dans les saisons les plus meurtrières sur les routes. Là. 2022, pire bilan depuis le début de la décennie, 392 décès sur les routes. Le tiers des gens, on estime à peu près, qui se sont retrouvés dans des accidents mortels n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Il y a même un rapport en 2021 du coroner Alain Manceau qui avait recommandé à la SAQ là, d'intensifier leurs efforts pour être capable de vraiment pousser, mettre de l'avant les gens à porter leur ceinture. Peut sembler un peu fou, là. En tout cas, de mon point de vue à moi, en 2023, moi, j'étais convaincu que tout le monde mettait sa ceinture de sécurité tout le temps. Semble-t-il que non, hein? Semble-t-il qu'il y a bien des gens qui décident de ne pas le porter, particulièrement chez les 25 à 54 ans. 36% des gens qui ne mettraient pas leur ceinture de sécurité. Mme Guilbeault qui tombe exactement dans cette catégorie d'âge-là en plus. Bref, elle a été contactée par le journal, elle s'est excusée. Au moins, on va y donner, elle n'a pas essayé de nier les faits, là. On se souviendra, là, M. Coderre, par exemple, en pleine campagne, qui était au cellulaire, au volant, hein, qui était en train de texter une intersection, qui s'était fait attraper, pincer sur le fait, puis qui avait décidé de faire quoi, lui, à la place? Mais il avait nié en bloc, puis après ça, il s'était rectifié, puis il avait recorrigé. Mais là, mon téléphone, il était tombé de sa clip, vous comprenez? Fait que je l'ai attrapé pour le remettre, puis c'est là qu'on m'a pogné. Ouais. Oh, ça avait mal passé. Au moins, Mme Guilbeault a l'honnêteté de dire que, c'est vrai. Elle a pas mis sa ceinture pour
ses... Non, j'avais un téléphone au socle.
Ben voilà, j'avais un téléphone au socle, hein. C'est ce qu'on entend de M. Coderre, voilà. Un bon extrait. Au moins, elle a pas nié, hein. On va apprécier sa franchise dans ce cas-ci. Mais c'est sûr que quand vous êtes tour à tour ministre de la Sécurité publique et ministre des Transports, pas porter votre ceinture en auto, c'est non. C'est pas une bonne idée du tout. À Montréal, en ce moment, on le sait, avec la crise du logement, il y a des gens qui doivent se trouver des appartements qui sont parfois un tout petit peu douteux. Hein. C'est le cas, entre autres, mais d'une jeune Montréalaise, Amélie Royer-Larocque, qui s'est mise à publier sur TikTok, entre autres, là, cette jeune femme-là de 20 ans. Ben, c'est des boires en appartement. C'est des boires qui prennent l'apparence de petites punaises dégueulasses. Des bonnes vieilles punaises de lit. Mais là, c'est que sa vidéo est devenue virale. On est à 3,1 millions de visionnements. Alors que ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle a collé comme une belle feuille blanche sur son frigo. Puis chaque fois qu'elle trouve une punaise de lit, puis elle fait ça, c'est important, dénonce la lenteur, entre autres, de sa propriétaire de venir régler le problème. Là, semble-t-il que ça a pris une mise en demeure pour qu'elle vienne envoyer un exterminateur effectuer un deuxième traitement. Elle prend une feuille blanche, la colle sur le frigo, puis après ça, elle colle des punaises de lit qu'elle trouve, là, les attrape avec sa main, puis ça va les coller sur un petit morceau de scotch tape sur le frigo en leur donnant des beaux petits noms. C'est super gentil. Justine, Laurie, Nadine, la punaise de lit. Bref, elles héritent toutes de beaux petits noms comme ça, mais il y en a une impressionnante collection, là, une bonne plusieurs dizaines là, de punaises qui sont à cet endroit-là. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un moyen original peut-être de dénoncer hein, les problèmes parce que ça arrive trop souvent, malheureusement, qu'on doive se battre à Montréal avec ses proprios. Je ne sais pas que c'est le cas de tout le monde, vraiment pas. Mais même ici, à Cube Radio, on a une collègue qui a été aux prises avec ce genre de problème-là là, dans la dernière année, coincée avec des punaises de lit, un proprio qui ne réagit pas du tout, des mises en demeure qui doivent se multiplier pour essayer d'endiguer le phénomène. Puis c'est quelque chose que vous avez jamais expérimenté, là. Des punaises de lit, c'est dégueulasse, c'est affreux, ça vous pique, c'est dans toutes vos choses, vous devez tout nettoyer, l'ensemble de votre linge, de vos meubles, de votre lit, c'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable à avoir. Puis malheureusement, quand on envoie une mise en demeure, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on est souvent obligé de se rendre jusqu'au tribunal administratif du logement. Puis au Québec, ben, le TAL, ce tribunal-là, comme presque tous les autres, est super engorgé, c'est vraiment long. Mon Dieu que c'est lourd à voir, à se forcer puis à aller faire des démarches qui peuvent être longues pendant que vous souffrez de punaises de lit. Donc peut-être un nouveau moyen qui vient d'émerger, celui des réseaux sociaux, et d'être capable d'attirer l'attention de 3,1 millions de personnes, mais peut-être que ça va venir l'aider dans sa cause. Qui sait? Hier, au Cégep du Vieux-Montréal, on a vu, disons, une démonstration un peu agressive d'un certain militantisme là, recensé dans l'agenda qui a été distribué par l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, l'AGECVM, AGECVM, je pense qu'il le prononce, l'association militante qui, d'ailleurs, avait décidé que cet agenda-là serait là avec le thème « Histoire et continuité du militantisme étudiant ». Quelque chose qu'on, évidemment, on ne se cachera pas, là, au Cégep du Vieux-Montréal, c'est quelque chose qui est très important, qui est très bien implanté, le militantisme étudiant. Puis ça, on peut les comprendre, là, de rendre hommage à tous ces jeunes qui ont décidé de se politiser, en bien ou en mal, dans les dernières décennies au Cégep du Vieux-Montréal. Je pense qu'on soit pour, qu'on soit contre des manifs étudiantes, qu'on soit pour, qu'on soit contre les mouvements qui sont amenés là. Bien, il y a une importance quand même là, de voir des revendications émerger au cégep. Je trouve ça formateur. C'est beau la jeunesse quand on décide de prendre à cœur certaines causes puis de les pousser un maximum. Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Là. Je vais pas, je ne peux pas continuer de défendre le militantisme étudiant quand on passe ouvertement ben, dans des propos qui peuvent être de l'incitation à la violence. C'est comme ça que le cégep l'a considéré. Sur l'agenda, entre autres, ben, il y a l'acronyme ACAB, qui veut dire « All cops are bastards », tous les policiers sont des salauds, qui est utilisé, règle générale, pour dénoncer la police ou décrier la police et les brutalités policières. Mais c'est parce qu'en plus, avec le ACAB qui est écrit, il y a le dessin d'une auto du SPVM, une autopatrouille en feu, t'sais, en flamme. Je vous avoue, ça, je trouve que c'est maladroit. Puis il y aurait eu moyen là, de dénoncer les brutalités policières, de faire un beau dessin, par exemple, là, je sais pas, des manifs étudiantes, des carrés rouges, du printemps érable qu'il y a eu au Québec. Ça, ça aurait été... Il y aurait eu une belle signification, un beau rappel d'événements historiques où il y a eu des débordements policiers, absolument, des débordements étudiants aussi, mais ça aurait valu la peine de faire un beau dessin comme ça. Là, on se défend en disant « Mais non, vous savez, c'est pas du tout de l'incitation à la violence. » Mais c'est un dessin d'une auto de police qui brûle, puis précisément du SPVM ici à Montréal. On peut être en désaccord avec les subventions que la police reçoit. On peut être en désaccord avec certains emplois de la force que la police fait. On peut être en désaccord avec toutes sortes de choses. Mais après ça, de venir dénoncer, là, parce qu'il y a une page aussi dans l'agenda qui est un texte qui va à l'encontre des policiers. On dit l'origine et le rôle de la police dans le système capitaliste. Puis on dénonce à grands cris pendant le reste. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on va rater la cible, puis on va parler de cet agenda-là en ce moment pour des mauvaises raisons, qu'on aurait pu tout de même dénoncer la brutalité policière, tout de même se montrer contre, mais pas mettre le dessin d'une voiture en feu avec, encore une fois, « all cops are bastards ». Je trouve ça déplorable de dire ça, honnêtement. Là. Dans tous les milieux, on essaie de dénoncer les généralisations abusives, les stéréotypes grossiers. Puis c'est le genre de choses, habituellement, que des étudiants comme ça vont dénoncer, là, tu sais. Les stéréotypes plates, poches, là. Ah oui, tous les musulmans sont des extrémistes. T'sais. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est un énorme stéréotype grossier. Ben, dire tous les policiers, c'est des salauds, pis c'est tous du monde qui tabasse les gens dans les rues sans discrimination, pis qui sont prêts à battre n'importe qui comme ça dès qu'on leur désobéit. Je m'excuse, mais c'est un énorme mensonge. C'est une généralisation abusive. Prochaine fois que vous voulez en dénoncer une comme ça, ben, pensez aussi aux policiers. C'est plate, sincèrement, pour ceux qui font vraiment de leur mieux pour être capable de protéger les gens dans notre société. Bienvenue ce matin à Cube Radio.
Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Culture et société.
La température n'a pas toujours été clémente cet été, encore une fois. Ça force le report d'un événement, Anaïs Gertin-Lacroix.
Ben exactement, Alex. Vais-tu le mentionner? Hein? Météo et été 2023, on dirait que ça ne va pas de pair. Donc, la Super Francofête qui devait commencer aujourd'hui, en fait, est reportée officiellement à demain, jeudi, en raison justement de risques d'orages, de potentiels d'orages violents. On l'a vu à quelques reprises, des événements qui ont été soit complètement annulés, soit reportés. Donc là, rassurez-vous, vous pourrez voir sur scène demain, Cœur de pirate, Rock voisine, Marie-Josée Laure, Radio-Radio, Sarah May, j'en passe. Mais en raison de la météo, ce ne sera pas ce soir que ça va débuter. Donc, évidemment, c'est toujours plate quand on a prévu ça à l'agenda, quand on s'est dit on va se louer un hôtel pour aller vivre l'événement, que finalement, ben, on doit reporter ça de 24 heures. Mais en raison de la météo, on n'a pas beaucoup de pouvoir en là-dessus contre Dame Nature. Donc, ça a été confirmé hier en début d'après-midi. C'est demain officiellement que commencera cet événement majeur. Et je vous rappelle également que ce week-end, il y aura dans le cadre juste de la Francofête, ce gros spectacle-là, en hommage à Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, avec plusieurs artistes tels Bruno Pelletier, entre autres. Céline n'y sera pas, évidemment. Jean-Jacques Goldman n'y sera pas, évidemment. Mais le but, c'est de revisiter l'album 2, qui a été l'album de la francophonie, l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Donc, gros événement. Et la bonne nouvelle, Alex, c'est qu'à part ce soir, il annonce du soleil sur un moyen temps. Donc, ça, c'est positif.
Oui, il y a au moins ça pour se consoler. Dans les autres événements, Anaïs, mais celui-là qui est un peu plus loin de nous, le MTV Video Music Award. On sait qui va recevoir le prix Vidéo Vanguard.
Un prix qui est remis justement chaque année à une artiste qui s'est démarquée dans les dernières années, je dirais même dernières décennies. Vous avez sans doute reconnu la voix de Shakira qui deviendra la première artiste sud-américaine à recevoir, Alex, cette distinction-là. Ce sera le 12 septembre prochain. La deuxième artiste latine, puisque c'est Jennifer Lopez qu'elle avait reçue en 2018. Donc, un événement très important pour Shakira qui va également chanter pour la première fois depuis plus de 10 ans. Imagine-toi, ça fait 25-15 ans qu'on l'a pas vu sur scène. Oui, donc manquez pas ça. Et tu dis que c'est loin de nous, mais en même temps, c'est à la télévision. Les Video Music Awards, ça fait partie de ces événements où on voit là, une panoplie d'artistes sur scène avec des performances qui ont marqué l'histoire. Certaines, notamment, moi, je pense à des Britney Spears de ce monde avec les gros serpents là, et tout ça. J'ai l'image en tête et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, mettez ça à l'agenda si vous trippez sur ces artistes, si vous trippez sur la musique. 12 septembre prochain, ce sera une journée vraiment importante pour Shakira, qui, dans les dernières années, on a parlé de possibles fraudes, elle qui a vécu son divorce. Tout ça a été très médiatisé. Donc, je pense que c'est une bonne table d'endroit également pour cet artiste-là qui a été à l'avant-plan, je te dirais, pas nécessairement pour son art. Donc là, c'est son art qui sera salué lors de cet événement-là.
Ouais, puis moi, j'ai hâte de l'avoir remonté sur scène, honnêtement, Anaïs. C'est toute une interrogation pour moi de voir qu'est-ce qu'elle est devenue avec le temps, Shakira. On dirait que...
Je te confirme qu'elle danse encore du ventre. Et c'est une Shakira toujours tout aussi rayonnante. On l'a vu ailleurs sur scène et comme ça, aux États-Unis, dans le cadre d'un événement, c'est important. Ça fait longtemps, mais je peux te garantir, tu vas reconnaître ta Shakira d'amour, mon Alex, je peux te le confirmer.
Comment t'as deviné que c'est ma Shakira d'amour? Mon Dieu, j'ai rien dit en plus. Ah là là. Écoute, à la télé québécoise, pendant ce temps-là, ben, on a des premiers concurrents qui ont été révélés pour l'émission Sortez-moi d'ici.
Oui, donc Sortez-moi d'ici qui débutera dans quelques mois, mettant en vedette avec l'animation, plutôt Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion. Et hier, nous avons découvert trois candidats qui seront de la partie. Je commence avec Dave Morissette, Rosalie Vaillancourt qui a publié une photo d'elle habillée très sportive, là, je te dirais, avec les fameuses les Bermudas beige, là, un peu, ça me faisait penser à Jurassic Park, là, je te dirais, là, dans la façon qu'elle était vêtue, avec un gros sac à dos disant, je viens disant, je me suis fait un nouvel ami, mon BFF, donc mon best friend est rendu Dave Morissette et Sébastien Toutant, donc trois des artistes que vous verrez dans cette émission-là. J'imagine que les prochaines semaines, on a plusieurs autres qui seront dévoilés. La prochaine cette année là, sera tout aussi spectaculaire que celle de l'an passé. Alors, bien hâte de voir cette nouvelle saison de Sortez-moi d'ici.
Oui, c'est des candidats quand même intéressants. Là. Sortez-moi d'ici, tu sais, ça... Ça demande une dose de courage quand même comme émission. J'ai hâte de voir le mélange de Rosalie Vaillancourt, qui est toujours super drôle, bien sûr. Mm-hmm. Puis Dave Morissette aussi, qui a tellement de belles personnalités, qui est tellement sympathique de le voir interagir là-dedans. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Puis Anaïs, dans les émissions de télé comme celle-là, on va avoir ici une adaptation québécoise d'une célèbre émission, MasterChef. Et là, on en connaît un peu plus sur ceux qui vont être derrière tout ça.
Exactement. Hey, tu dis d'une célèbre, tu as tellement raison. Il y a plus de 70 versions de MasterChef, Alex, qui ont été tournées à travers le monde. Au total, ce sont plus de 500 saisons, plus de 10 000 épisodes. Donc, c'est une émission qui a fait ses preuves, je te dirais. Et dans les juges, ce qu'on a appris hier, parce que c'est le lancement de la programmation, justement, de TVA, c'est Martin Picard et Stefano Faïta qui sont des amis dans la vie et qui seront les chefs, justement, à cette émission-là. Martin Picard, qu'on a vu à Chef de bois, entre autres, excellente émission, si vous ne l'avez pas vu encore, qui venait parler aux concurrents, justement, pour leur dire s'ils pensaient réellement de leur nourriture. Donc, ce sera ça cette année, encore une fois, dans la version MasterChef. Et là, on cherche des chefs, OK? Mais là, faut savoir faire plus qu'un bol de céréales avec une bonne quantité de lait. Il faut avoir une personnalité aussi, mon Alex. Et ce sont 50 000 $ au total, OK, qui seront remis aux grands gagnants. Non, mais parce que moi, je pourrais pas, là.
Tu m'as fait décrocher avec ton bol de céréales avec du lait, mais j'espère que c'est pas ça que personne va amener dans une émission de cuisine.
Ben, c'est très divertissant. Ça s'écoute. Ça serait très divertissant, imagine-toi. Non, mais le défi, la quantité de lait idéale pour un bol de céréales. Sans que les céréales soient trop molles, sans qu'elles soient trop dures. Non, on blague, là.
J'ai hâte, je vais aller m'inscrire tout de suite à Anaïs. Moi, le faire, moi, le déjeuner, moi, comme ça.
À la quantité de céréales que je mange, je pense que je pourrais le gagner, ce défi-là, je te dirais. Donc, 50 000 $ au total là, qui seront remis aux grands gagnants. Allez faire un tour sur le site de TVA si vous avez envie, si vous pensez avoir le talent, justement, pour relever le défi de MasterChef.
Moi, j'aime tellement en plus. C'est mon plaisir coupable, Anaïs. Honnêtement, je vais te le dire. Moi, écouter des Hell's Kitchen, des MasterChef, des émissions de cuisine comme ça, là, de concours, on dirait que c'est thérapeutique pour moi d'être chez nous en train de manger des vieux ramen que je me suis fait dans le micro-ondes, mm-hmm. puis de regarder, puis de juger des gens qui font des plats extraordinaires. Puis le juge dit, ah, c'est pas très bon. Moi, je suis là, ah, ça a l'air dégueulasse. Puis là, je mange ma vieille bouffe sur mon divan chez nous. On dirait que ça m'exorcise quelque chose en dedans, Anaïs. Moi, ça vient me chercher.
Il y en a tellement d'émissions culinaires, puis on se tanne pas, donc c'était pas le seul, hein, comme ça, à qui ça vient. Moi, je trouve ça fascinant, c'est de l'art. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au Québec, on en a quelques-unes, émissions de télévision, on crie pas. Là, tu parles des Hell's Kitchens de ce monde, là, moi, m'amener, là, et se faire crier de même après, c'est un coup de chaudron derrière la tête, là, je suis pas pour la violence, mais vous comprenez ce que je voulais dire, donc c'est ce que j'aime aussi de nos adaptations. On n'est pas là en train de crier, il y a un peu moins... c'est ça, ça brasse un peu moins de façon positive, je te dirais, parce que non, mais avoue, dans ces émissions-là, par moment, là, ils ont pu crier, ils se font gueuler derrière la tête, toute la bouffe revole. Donc, je peux vous garantir que MasterChef au Québec, je pense pas que Martin Picard, qui quand même peut avoir une détranchante par moment, ce sera pas du cri, parce que ça, c'est la seule chose qui, des fois, ça vient me chercher un petit peu.
Ouais, ça je peux comprendre. En même temps, Anaïs, si tu débarques à MasterChef avec ton bol de céréales avec un peu trop de lait, peut-être que tu vas te faire crier après, puis peut-être que ça va être mérité un tout petit peu. Anaïs Gartin-Lacroix, merci, bonne céréale
Alex,
ce matin.
À demain, bye bye.
Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Messire, dans le Nord, M. Ramaswamy et le clan Trump sont en train de s'associer. Enfin, leur cause commune les regrouperont pendant ce temps. Nikki Haley rejoint dans les intentions pour le prochain roi Ron DeSantis sur le terrain, lui, pour défier un ouragan. Que d'action, Luc La Liberté, que d'action en ce moment dans la politique américaine.
Bonjour Alexandre.
Bon matin Luc. Tu sais à quel point j'aime ça faire des blagues de Game of Thrones quand je regarde ce qui se passe dans les primaires américaines. Et là, ben les sondages, pour une fois, hein, on va se le dire comme ça, pour une fois, ben il y a un peu de mouvement là, après juste l'avance écrasante que M. Trump. On a du nouveau sur cette scène-là.
Voilà donc, et ces nouvelles émanent du camp Trump. Donc, on a effectué des sondages à l'interne. Ce sont des sondages qui se sont faits depuis le dernier débat. Et ces sondages donnent deux adversaires de Donald Trump en pleine progression. Il y aurait Vivek Ramaswamy. Et M. Ramaswamy, Donald Trump aurait déjà envisagé la possibilité d'en faire un vice-président. Donc, il reconnaît une certaine forme de progression, mais pas un adversaire redoutable. Un bon vice-président. Sinon, une candidate que moi j'apprécie depuis longtemps, si on pense en termes de stratégie républicaine pour une élection fédérale, Nikki Haley. Donc, ce qu'on dit, c'est que Ramaswamy et Haley sont sur le point de rattraper Ron DeSantis. Alors, ça peut être une stratégie du camp Trump pour faire fléchir le moral un peu de M. DeSantis, pour montrer aux électeurs américains que M. DeSantis, sa campagne ne lève pas, qu'il ne progresse pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il identifie ces deux adversaires-là.
Oui, c'est sûr, parce que en ce moment, M. Ramaswamy, c'est certain que quelque part, il allait finir par avoir une association. M. Trump, même si, évidemment, il n'hésite pas à les lancer par-dessus bord une fois que leur utilité, leur vie utile est terminée, mais quand il y a quelqu'un qui le flatte dans le sens du poil, autant que M. Ramaswamy peut le faire en ce moment... Ben c'est sûr que ça allait attirer son attention. Là, il est le seul, je rappelle, pendant le débat républicain, qui a dit littéralement non seulement que pour lui, M. Trump n'est pas disqualifié, puis c'est à cause de tous les procès qui sont contre lui, mais il a même dit qu'il serait prêt à le pardonner si jamais il devenait le candidat, si jamais lui-même était élu comme président. Là, c'est quand même gros.
Ah, écoute, c'est une très, très grosse décision, surtout si on considère que. Ce qu'a fait Donald Trump, c'est ce qu'il y a de plus grave pour un politicien américain et pour un politicien américain. Donc, on en est carrément à de la trahison ou à ne pas avoir respecté la Constitution américaine.
Oui, ça c'est certain que c'est dans les trucs les plus graves qu'on peut pas faire de ce côté-là. Luc, pendant ce temps-là, on a du côté de Fox News de la désinformation qui nous parvient. Hein. On a une fresque très, très critique de quelque chose, puis on l'a présenté de manière complètement autre.
Écoute, c'est un artiste, Chris Veal, qui est un spécialiste du pop art, Gentex, qui sort là-dessus vers 11h30 dans le journal. Donc, sur le site du journal. Alors, ce qu'a fait Chris Veal, c'est de récupérer la fameuse mugshot. Et juste avant, il a rentabilisé l'opération, comme M. Trump. Donc, Chris Veal se fait prendre, il a un selfie où il se fait prendre en photo devant un mur qui est dénudé, dans lequel il dit ben, « Coming soon, the mugshot ». Alors, pour bientôt, donc, la photographie d'identification, d'arrestation de Donald Trump. Et ensuite, une fois le verdict annoncé, ou une fois la mugshot, plutôt, qui commence à circuler, ben, Chris Veel s'appelle à la fresque et représente Donald Trump sous des traits maintenant qui nous sont connus. La photo fait le tour du monde. Mais il ajoute une bulle, comme dans les bandes dessinées, dans lequel ben, il se moque un peu de Donald Trump. Ce qu'il fait dire à Trump, en anglais, c'est « MAGA my ass, I got arrested ». Donc, c'est un slogan, finalement. Hein, c'est « Malgré tout ce que j'ai dit, même si je ne cesse de demander au MAGA d'intervenir et de prendre ma défense, ben j'ai quand même été arrêté. Alors, ça, si on regarde en ligne, pour peu qu'on cherche, on va trouver des t-shirts, des casquettes, on va retrouver plein de d'anti-Trump qui manifestent à l'aide de cette phrase. Alors, c'est celle-là que M. Veel récupère. Maintenant, Fox News, alimenté par Twitter et par des conservateurs de Twitter, va faire jouer une vidéo de Jay, et c'est l'animateur Jesse Waters, celui qui remplace Tucker Carlson, qui anime cette vidéo. Mais sur cette vidéo, on ne voit que le visage de Donald Trump. Donc, on n'a pas le phylactère, la petite bulle de bande dessinée à côté, ce qui fait qu'on se sert de ça pour vanter les mérites de Donald Trump en disant « Regardez cette fresque, on est en train de répéter 2016. » Monsieur Trump, c'est le champion de l'Américain oublié. Il y a un lien qui s'est créé en 2016 et rien ne va le briser. Et c'est ce qui a circulé de la fresque sur Fox News pendant un bon moment et dans des réseaux également qui font habituellement l'apologie de Donald Trump. Ça veut dire qu'ils sont des millions de personnes à croire que l'œuvre de Veel, qui est très critique, est plutôt là pour encenser Donald Trump. Pour bien montrer à quel point c'était ridicule d'imaginer une œuvre faisant l'apologie de Donald Trump à cet endroit, il faut rappeler qu'Atlanta, c'est un bastion républicain. En général, on y rejette à près de 70% Donald Trump. Donc, il y avait beaucoup plus de chances de retrouver une œuvre critique qu'une œuvre qui fasse l'apologie de Donald Trump.
Oui, ça c'est absolument certain. Puis j'en profite aussi, Luc, j'ai demandé à notre très cher collègue Félix Séguin, là, lui qui est le pro des affaires judiciaires, ouais. C'était quoi un mugshot en français? Puis on l'a maintenant, c'est une photo d'écrou. C'est comme ça que ça s'appelle, ah. Parce que c'est le processus, on se fait écrouer par la justice quand on y arrive. Donc voilà, c'est la francisation, je voulais le préciser ce matin, moi non plus, là, c'est pas quelque chose que je connaissais. Donc la photo d'écrou de Donald Trump qui est utilisée à toutes les sauces, mais... Cette fois-ci, c'était critique, puis ça n'a pas été présenté comme tel. Aux États-Unis, Luc, quand on réussit pas à s'entendre entre les partis dans certains paliers gouvernementaux, ben des fois, les services du gouvernement font juste s'arrêter. Tout tombe à plat. On n'est pas capable de s'entendre. Voilà. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui se profile à l'horizon.
Voilà, donc on ne conserve quand il y a ce qu'on appelle un shutdown, fermeture des services gouvernementaux. On ne se contente de certains services qui sont absolument essentiels aux Américains. Donc, c'est dramatique. Ce sont beaucoup d'emplois. Ce sont des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent au chômage, se retrouvent sans revenus, sans emploi. Et beaucoup d'Américains, donc, se retrouvent, eux, sans service. Donc, qui est responsable de ça cette fois-ci? Il semble qu'entre les Républicains, appelons-les comme ça, plus modérés, soient prêts à s'entendre avec les démocrates pour éviter un événement qui est catastrophique. Donc, une fermeture de services gouvernementaux. Alors, encore une fois, Kevin McCarthy, qui est le speaker de la Chambre des représentants, va devoir composer avec sa faction la plus radicale. Ça a été le cas dans une foule de domaines. C'est le cas plus récemment avec la procédure de destitution de Joe Biden. La plupart des gens disent « Vous n'avez rien contre Biden » et McCarthy, peu importe le discours qu'il tient, sait qu'il ne détient rien pour aller jusqu'au bout d'une procédure contre Joe Biden. Mais en même temps, il doit répondre aux demandes de ceux qu'on appelle les MAGA, des élus partisans de Donald Trump qui disent « Nous, on va jusqu'au bout. On le fait avec notre président et on va le faire avec Joe Biden. »
Ouais, c'est comme une politique d'œil pour œil, dent pour dent en ce moment. c'est pas élégant, mais bon, c'est quand même, ça a quand même son mérite peut-être pour les Républicains. En terminant, Luc, quelque chose qui est venu particulièrement me chercher, je t'avouerai, hier, j'en ai parlé beaucoup en chronique avec Jean-François Barry, une goutte de plus aux États-Unis qui s'ajoute sur le dos des gens des communautés LGBTQ+. Là, c'est le Canada qui est obligé de mettre en garde les voyageurs parce que ça devient franchement dangereux, là, on n'a pas le choix de le dire, pour certaines personnes de ces communautés-là aux États-Unis.
Écoute, j'ai vu passer la nouvelle, puis j'ai immédiatement pensé à une conversation que j'ai eue avec des étudiants qui sont en couple et qui, à la fin de la session dernière, après le cours d'histoire des États-Unis, viennent me dire « Luc, on pense aller aux États-Unis, on aimerait des suggestions de visite, mélangeant histoire et divertissement, mais on voudrait aller aussi dans certains États du Sud. Et on se demande si il y a des mises en garde que tu nous ferais. » Et je leur avais dit à peu près ce que le Canada vient de servir comme avertissement. Il y a des endroits où la charge contre la communauté LGBTQ, contre les lois qu'on a mises en vigueur, où carrément, il faut faire très attention. Et j'ai fait quelque chose qu'au Québec, je n'ai jamais besoin de faire, auquel je ne pense jamais. Mais j'ai donc mis en garde, moi aussi, les deux étudiantes contre, appelons ça, des manifestations d'affection, ou de se présenter vraiment comme étant un couple dans les endroits où les filles allaient se rendre. Et c'est un peu ce qu'on a rappelé aux voyageurs canadiens. Donc, on en est là en 2023, quand on parle de notre voisin, de notre principal partenaire économique, mais notre principal partenaire également en sécurité sur la scène internationale. Faites attention. Si vous êtes gay, si vous êtes trans, j'ai une amie qui écoute régulièrement l'émission et qui conduit des camions, des poids lourds, et c'est exactement ce qu'elle fait. À certains endroits aux États-Unis, elle est trans, elle évite de se présenter comme telle ou de s'afficher. Il y a carrément des endroits où elle ne rentre même pas dans ce qu'on appelle des truck stops, hein, ces fameux arrêts pour les camionneurs le long de la route, les camionneurs et les camionneuses. Donc, rappel, le Canada est obligé de faire ce genre d'avertissement si on veut assurer la sécurité des nôtres à l'étranger. Si on pense que ce n'est qu'une guerre culturelle et qu'il n'y a pas de retombées concrètes dans la vie de tous les jours à ce qu'on fait aux États-Unis dans certains États, on est rendu maintenant sur le terrain des vaches, on est rendu dans la réalité et ça nous rattrape comme voyageurs.
Ouais, je trouve ça tellement triste. Je trouve ça atterrant. On a toujours parlé des États-Unis comme le pays des possibilités, le pays des libertés individuelles aussi. C'est que de contradictions. Hein? La liberté d'être qui on est puis d'aimer qui on veut. Ben, en fait, de qui on aime dans la vie de tous les jours, hein, parce que je rappelle, c'est pas un choix. Ah, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste, Luc, de voir qu'on est tombé à ce point-là. Luc Laliberté, merci beaucoup.
Une bonne journée, Alexandre.
Salut.
Alexandre Morin-Ville-Ouellet. Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
On apprend cette semaine que le gouvernement Legault a autorisé la Société des traversiers du Québec, la STQ, à draguer, hein, à aller chercher des sédiments, quantité importante, dans le port de Rivière-du-Loup. Les conséquences qui pourraient, entre autres, venir affecter autour de ce dragage l'habitat naturel des bélugas dans le Saint-Laurent, qui est bien évidemment une espèce qui est menacée. Pour en discuter avec nous, Robert Michaud, le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, M. Michaud.
Bien, bonjour.
Là, on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites autour de ce dragage qui doit être fait. Là. Puis je résume le dragage, on doit déplacer beaucoup de sédiments pour être sûr que les bateaux puissent passer, entre autres le traversier qui relie Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Mais il y a quand même des inquiétudes là, autour de l'environnement du Beluga quand on entreprend des travaux comme ceux-là.
Bien oui, il y a des vraies inquiétudes, puis en fait, la décision du gouvernement Legault est basée sur une recommandation du Bureau des audiences publiques, le BAP, qui a reçu des mémoires, mais revu plusieurs études, en fait, qui explorent les différents impacts que ce type d'activité-là peut avoir sur les bélugas. C'est juste de dire qu'on n'a pas des études sur tous les impacts. Mais quand même, cette décision-là ou cette recommandation du BAP est basée sur beaucoup de données, sur beaucoup d'informations. Et bon, il y a deux choses qu'on craint pour les bélugas de ce type d'activité, qui d'ailleurs, c'est important de mentionner, c'est pas une première, ce dragage, ça fait des années que le dragage est fait. Là, l'ensemble de l'œuvre a été révisé, a été soumis au BAP, qui a recommandé d'aller de l'avant, en posant des conditions très particulières et assez restrictives d'ailleurs. Fait que ces activités-là de dragage ont deux impacts potentiels sur les bélugas. C'est-à-dire que le relargage des sédiments, vous savez, les sédiments emprisonnent en quelque sorte toutes sortes de choses, des animaux, des proies benthiques desquelles le béluga se nourrit parfois, mais il emprisonne également les contaminants. Puis ça, pour le Saint-Laurent, pour les bélugas, c'est quand même une bonne chose parce qu'une fois que les sédiments, les contaminants vont dans les sédiments, certains peuvent y rester pour très longtemps. Puis c'est une façon de nettoyer le Saint-Laurent. Mais quand on les manipule, quand on les soulève avec les outils qu'on utilise pour le dragage, bien on les remobilise et ça peut contribuer à augmenter l'exposition des bélugas aux contaminants. Ça, c'est inquiétant. Puis ça, c'est vrai qu'on n'a pas une étude précise, détaillée, qui dit combien de contaminants vont être relargués puis vont affecter les bélugas. Mais ça fait partie de la contamination ambiante. Et dans la recommandation du BAP, ce que le gouvernement du Québec a retenu, il y a la suggestion de, avant chaque saison de dragage, de refaire les mesures des contaminants. Alors, on peut s'imaginer que s'il se trouvait plus de contaminants qu'on soupçonnait dans ces sédiments-là, parce que les conditions de sédimentation ont changé, on pourrait ajuster le tir. Fait que de ce côté-là, c'est une vraie inquiétude. Par contre, c'est une activité qui est en cours depuis très longtemps. On n'ajoute pas une nouvelle source de dérangement ou de contamination au béluga, mais on a regardé de façon détaillée comment on pourrait en réduire l'impact. L'autre inquiétude qui est aussi importante, c'est que cette activité-là, évidemment, ça se fait avec des navires, ça implique beaucoup de transit de bateaux, puis même juste les pelles qui sont utilisées, les bennes qui sont utilisées pour soulever les sédiments, ça fait du bruit. Les bélugas n'aiment pas le bruit, ils fuient le bruit et ça les dérange, ça augmente le facteur de stress. Et pour réduire cet impact-là, qui est comparable à toutes sortes d'autres transits de bateaux, vous savez, il y a beaucoup de bateaux qui transitent dans le Saint-Laurent, puis si on pouvait réduire le nombre de bateaux, globalement, les bélugas, ça n'en ferait que mieux. Évidemment, s'il n'y avait pas ce dragage-là, les bélugas seraient mieux, mais pour atténuer ces impacts-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux promoteurs, pas des promoteurs, mais aux travailleurs, de reporter leurs activités après le mois de septembre, après la période de fréquentation intensive. Alors, pour les bélugas, ben, c'est pas une grosse nouvelle parce que c'était quelque chose qui se faisait depuis un moment. Ça va peut-être être fait un peu mieux avec les surveillances qui sont forcées, qui sont imposées pendant les travaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de dragage pendant que les bélugas sont à proximité du site. Même la nuit, il y a une surveillance avec des hydrophones. C'est pas parfait, mais ça aide. Alors, globalement, on encadre sérieusement une activité qui, oui, qui a un potentiel de dérangement. Mais c'est une activité qui avait déjà cours, c'est pour soutenir une activité essentielle des humains traversés du nord au sud. Puis peut-être qu'on l'a regardé avec un œil différent que si c'était un nouveau projet. En fait, notre problématique, puis peut-être celle des bélugas, devrait se tourner un peu plus sérieusement vers la croissance, vers les nouveaux projets. On devrait être plus sévère. Et pas fermer les yeux sur les projets par les façons qu'on fait les choses, mais on devrait être beaucoup plus sévère pour tout ce qui est de nouveaux projets. On devra être créatif pour atténuer les impacts des activités qu'on fait déjà, celles du trafic maritime qu'on connaît, qui est déjà abondant. Mais avant d'autoriser des nouveaux projets qui rajouteront des nouvelles menaces, je pense que c'est là qu'on devra être beaucoup, beaucoup plus sévère. Moi, dans l'ensemble, cette recommandation du BAP, je la trouve pas étonnante, je la trouve probablement correcte. La décision du gouvernement Legault d'aller de l'avant, c'est probablement correct également. Il y a toujours des risques, il y a des vrais risques, mais on tente de les atténuer sérieusement. Mais moi, ce que je nous encourage à faire, c'est tourner vraiment notre attention sur tout ce qu'on appelle des nouveaux projets, des projets de croissance, pas seulement pour les bélugas, je pense que c'est vrai pour l'ensemble des activités humaines puis de l'ensemble des êtres vivants avec lesquels on partage la planète. On a atteint un certain niveau de saturation, puis avant d'en faire plus, on devrait y penser pas deux fois, trois fois, mais vraiment 7 puis 10 fois.
Oui, là-dessus, on se comprend. Vous parliez de la saison du début de l'automne, là, du mois de septembre, parce que désormais, c'est ce qu'on veut faire, commencer les travaux le 1er octobre au lieu d'en septembre. C'est une période active pour les belugas. Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans leur cycle à ces animaux-là?
Ben, en fait, les données sur lesquelles on s'appuie pour faire cette recommandation-là, c'est des données qu'on a recueillies depuis des années. Puis le modèle qu'on a ou la compréhension qu'on a construite des déplacements des belugas, c'est qu'en été, les belugas reviennent de leurs aires d'hivernage. Ils s'en vont un peu plus loin vers le golfe l'hiver. Ils reviennent au printemps. Puis en été, ils s'établissent dans différents secteurs où ils vont rester. C'est les mêmes animaux qui vont dans les mêmes secteurs pendant tout l'été. Et à l'automne, ils commencent à se redéplacer un peu plus vers l'est. Et le moment de ce changement-là, on pense que c'est à peu près au mois d'octobre. Fait que les données dont on dispose suggèrent que si on fait le travail en octobre, on va exposer moins de belugas au relargage des contaminants, puis on va exposer moins de belugas au bruit des travaux. Par contre, et ça, c'est peut-être un message très, très important, c'est que le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire, le golfe, en fait, la planète en entier est en changement rapide. Fait que quand on fait des décisions maintenant, puis qu'on dit que ça va être une décision pour 10 ans, il faudrait inclure dans ces décisions-là des mécanismes de révision régulière parce que on l'a vu avec les baleines noires, on l'a vu avec d'autres espèces, avec le homard, avec le sébaste, avec la crevette. Les changements climatiques, le réchauffement de l'eau en particulier, puis maintenant on parle de la diminution de l'oxygène, la diminution de la glace, tous ces changements-là qui sont vraiment très importants dans le Saint-Laurent, ça va entraîner des changements dans la distribution de plusieurs espèces animales. Fait que si les belugas venaient à ajuster leur déplacement, leur mouvement saisonnier en fonction de ces changements-là, bien, il faut avoir dans les mécanismes d'aménagement ou de protection ou de gestion de nos activités, il faut avoir une procédure qui va nous permettre de s'ajuster rapidement. Ça, c'est peut-être un des plus grands défis qu'on a, nous les humains sur la planète maintenant, face au changement climatique, c'est notre capacité de s'adapter. Très longtemps, là, on a mis des années on accumule des données sur les belugas, on analyse les données, puis on arrive avec des recommandations, puis finalement, on fait un geste pour protéger les belugas. On n'aura plus le luxe de autant de temps. Il faut recueillir des données plus rapidement, il faut les analyser en temps réel, il faut recommander puis ajuster nos méthodes de gestion, de protection en presque en temps réel. On a des capacités scientifiques de faire ça de mieux en mieux. C'est bien. Et maintenant, est-ce qu'on aura la sagesse d'agir aussi rapidement que la situation l'impose? On n'a plus le luxe de l'attendre. L'attentisme, ce n'est plus une option. Le Saint-Laurent, son estuaire, le golfe, l'Atlantique, change rapidement. Ça pourrait nous surprendre. Ça pourrait changer encore plus rapidement que ce qu'on a vu dans les 5-10 dernières années. Alors, il va falloir être très, très vigilant. Par exemple, pour une décision comme celle-là, est-ce que le mois d'octobre, c'est vraiment la bonne date pour reporter les travaux? Pour l'instant, sur les données du passé, oui. Dans l'avenir, peut-être pas. Alors, s'il y a de nouvelles données qui rentrent, on devra s'ajuster.
Oui, on devra s'ajuster. Puis, j'imagine que vous allez être parmi les collaborateurs, si on veut, de ce projet de dragage qui va se faire. Là, j'imagine que vous allez être en observation, vous, du côté du GREM, pour s'assurer justement de pouvoir réviser si le cas échéant.
Ben, pas directement. On a des collègues du réseau d'observation des mammifères marins qui sont engagés pour faire des observations sur le site. Mais pour ce qui est des données globales qui pourraient nous permettre de proposer des modifications, c'est un travail collectif. Nos collègues à Pêche et Océan Canada font des inventaires. Il y a d'autres personnes à l'ISMER, à l'ICAR, qui font des enregistrements acoustiques passifs dans un cycle annuel. Nous, on fait des relevés en bateau. Alors, il y a plusieurs sources de données. Et on est tous vigilants. Et si par les enregistrements acoustiques de notre collègue à l'UQAR ou les relevés aériens de nos collègues de Pêche-Océan ou nos relevés en bateau, si quelqu'un détectait un changement dans la répartition des belugas, ben là, il y aurait des drapeaux rouges. Fait que nous, on n'est pas impliqués directement, mais on suit très attentivement la situation globale des belugas. Et sachant que ces activités-là, qui sont connues, là, ça commence pas le dragage, c'est une activité qui avait lieu depuis des décennies.
Ouais.
Mais sachant que c'est un point sensible et qu'il y a des recommandations puis des règles qui sont en place pour protéger les villes, qu'on retarde les travaux en octobre. Puis c'est pas sans conséquence. Enfin, pour les gens de Rivière-du-Loup, ce report-là des activités tard à l'automne, puis ne pas le faire au printemps, c'est un inconvénient majeur. Mais je pense que c'est une concession qu'on fait pour mieux cohabiter avec les bélugas. Dans le fond, cette décision-là du gouvernement Legault, qui suit la recommandation du BAP, qui est basée sur un ensemble de données assez impressionnant quand même, bien, c'est pas exemplaire, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager la cohabitation avec non seulement les bélugas, mais les autres espèces qui vivent dans le Saint-Laurent. On sait que nos activités ont un potentiel d'impact sérieux. Il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, reviser nos façons de faire, ajuster nos façons de faire, mais surtout, si on fait quelque chose de nouveau, soyons plus prudents et gardons cette capacité de s'ajuster. Quand on fait des décisions comme celle-là, ça peut pas être une décision pour 10 ans. On peut pas canner ces décisions-là dans le temps aussi longtemps d'avance parce que notre environnement change trop rapidement.
On vous entend bien là-dessus. On va garder ce projet-là à l'œil pour les prochaines années. Robert Michaud, vous êtes le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Manifestement, il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre Morin-Ville-Ouellette. Les rencontres de l'heure.
C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter?
David Santa Rosa.
Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance.
La rencontre, Morin-Ville, Santa Rosa.
Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
Pour la deuxième fois en 3 mois, David, la statue de Camille Lorrain à Montréal se fait vandaliser. Un geste qui est décrié, en tout cas, par la Société Saint-Jean-Baptiste puis d'autres organismes comme un geste qui pourrait même être raciste envers les Québécois. Comment t'interprètes tout ça, toi?
C'est toujours un gros mot d'utiliser le terme racisme. C'est clairement, ça vise clairement, tu sais, Camille Lorrain, c'est une statue, c'est un symbole de la Révolution tranquille, du Québec français qui se prend en main. Donc, clairement, il y a une attaque contre le Québec français là-dedans, ça c'est certain. Et il faut pas non plus voir ça comme quelque chose d'isolé. C'est-à-dire que pendant l'été, on a vu Sophie DeVito à la commission scolaire English Montreal, Gal Saad à Concordia qui a eu des propos contre le français qu'on parle au Québec. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'anecdotes qui s'accumulent, et chaque fois, on vise le Québec français, on cherche à mépriser le Québec français. Cette fois-ci, le vandalisme qui a été fait sur la statue de Camille Lorrain, ce sont des chaînes autour du cou, comme si Camille Lorrain nous avait enchaînés ou avait peut-être enchaîné les anglophones, que sais-je. Eh bien, au contraire, je pense que Camille Lorrain a libéré les Québécois francophones d'un espèce de sentiment d'infériorité.
Oui, absolument. Puis c'est quand même là celui qui est à l'origine presque là, de la loi 101, qui a travaillé avec le gouvernement de René Lévesque. C'est un héritage qui est incroyable autour de cet homme-là. Puis tu fais bien de le dire puis de rappeler dans les plans. C'est seulement les derniers cas de francophobie, je vais le dire comme ça, dans les derniers mois, parce qu'il y en a plus encore. Et ce que je relève, moi, toujours, là, le monsieur Saad qui a des propos en disant que c'est un affront à l'humanité, l'accent québécois. De dire ça, en plus, lui, il en a parlé sur le podcast de Joe Rogan, une des plateformes les plus écoutées sur la planète au complet. Puis Sophie DeVito, qui est une élue, elle prend ses réseaux sociaux à elle, personnelle, puis elle publie là, pour dire « Ah, ben le REM, ça paraît que c'est des francophones qui l'ont construit, puis c'est pour ça que c'est tout croche. » C'est sincèrement, moi, ce qui me frappe dans ces deux cas-là, c'est à quel point on se garde pas de gêne. À quel point on propage cette haine-là, moi je considère que c'est de la haine, mais complètement ouvertement, sur des plateformes de grand visionnement, de grande écoute, puis qu'on se dit, je n'aurai pas de répercussions pour tout ça. Au pire, les Québécois vont se fâcher, puis ça sera ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le cas? Les Québécois se sont fâchés, puis c'est ça.
C'est ce qui risque d'arriver à nouveau avec la statue de Camille Lorrain. Évidemment, là, ici, on vise une statue, on pourrait dire, on vise pas un individu en tant que tel, mais je veux dire, symboliquement, c'est plutôt fort. Et tu parlais justement un peu sur le plan historique, Camille Lorrain, à mon sens, c'est vraiment un personnage fondamental, souvent trop méconnu de la Révolution tranquille, parce que au début de... Camille Lorrain pilote le dossier de la loi 101. Ce qu'il faut savoir, c'est que René Lévesque n'était pas chaud à l'idée de la loi 101, c'est-à-dire qu'il voulait une loi sur le français, bien sûr, mais qu'il trouvait que la loi 101 allait un peu trop loin. Et Camille Lorrain a vraiment dit, ben moi, je vais convaincre René Lévesque, je vais convaincre le Conseil des ministres de dire, non, 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 c'est ça que ça prend pour assurer la pérennité du français, pour que le français devienne la langue officielle. Et puis finalement, il a gagné son pari. Et aujourd'hui, la loi 101, ben c'est un des meubles de la politique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on bouge pas ça. Si un parti politique arrivait sur la scène politique et disait, non, non, moi, je veux défaire la loi 101, disons qu'il payerait cher le coût de cette prise de position, là.
Ouais, ben en tout cas, on l'espère qu'il paierait cher autour de tout ça. C'est vraiment déplorable, vraiment, ce qui se fait autour de la statue de Camille Lorrain. J'espère qu'on va attraper, honnêtement, les gens qui décident, là, ou les personnes qui décident de revenir faire cet acte-là. Franchement, là, tu sais, puis surtout, vous faites du vandalisme comme ça, tu sais, il y a du monde qui ont déjà vandalisé des statues puis qui au moins avaient le culot de revendiquer leurs actions puis de les expliquer. Là, il y a même pas d'explication qui vienne derrière. Hey, si vous avez le goût de vandaliser une statue de quelqu'un qui a été important pour le Québec, dites donc pourquoi, hein. Soyez pas des lâches, s'il vous plaît. Après ça, on vous jugera selon vos propos. Mais pour l'instant, je trouve ça franchement déplorable. Autre chose que je trouve déplorable, David, c'est cet agenda au Cégep du Vieux-Montréal qui a été créé, bien évidemment, par l'asso étudiante, là, l'âge CVM au Cégep du Vieux-Montréal, qui a un dessin qui est assez controversé. Je pense que je vais te laisser l'expliquer, David.
En effet, donc il y a un véhicule de police du SPVM qui est littéralement en feu, hein, avec les initiales ACAB à câble, donc c'est All Cops Are Bastards, hein, donc c'est un slogan qu'on entend souvent, qu'on lit souvent, donc qui se veut anti-police. On dit que c'est anti-brutalité policière, bien honnêtement c'est anti-police là, rendu là. Bien sûr, le Cégep s'est dissocié de tout ça, et d'ailleurs... Cet agenda a fait le Journal de Montréal en a parlé, mais ça l'a fait, on en a même parlé aux États-Unis. Donc, j'ai vu des comptes sur Twitter en parler aux États-Unis comme quoi, justement, l'association étudiante dans un cégep, dans une école au Québec, présentait ça. Et moi, ce qui attire tout le temps mon attention dans ces choses-là, c'est que l'association étudiante qui fait ça, est-ce qu'elle représente véritablement le corps étudiant, hein, d'avoir des propos anti-police comme ça, des symboles anti-police? Évidemment qu'ils ne le représentent pas. C'est pas la majorité des étudiants au Cégep du Vieux qui vont avoir de telles idées par rapport à la police.
Ouais. Puis après ça, moi, je veux toujours mettre un bémol. Parce que pour moi, honnêtement, même si je partage pas des convictions comme celle-là, moi, j'ai pas de problème à voir au cégep des jeunes puis des assos étudiants se positionner contre le capitalisme, tu sais. Puis même faire une page, là, ils ont mis un texte contre la brutalité policière à la page 63, une espèce de manifeste. Sais-tu quoi? C'est les étudiants d'un cégep, en particulier le cégep du Vieux-Montréal, il y en a qui ont décidé de prendre des positions politiques, puis de commencer à exprimer des opinions, puis à revendiquer des choses. Puis je trouve que à cet âge-là, c'est ça qu'on doit faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, qu'il y en ait qui soient... Peu importe la position me rejoigne ou pas, je trouve ça bien qu'il y ait de la revendication. Puis sais-tu quoi? Ils ont même le droit dans l'agenda de faire un dessin pour dénoncer la brutalité policière ou rappeler, parce que le thème de l'agenda, c'est « Histoire et continuité du militantisme étudiant ». Pourquoi ne pas mettre, par exemple, un beau dessin, tu sais, d'un gars avec un ou d'une fille avec un carré rouge, tu sais, quelqu'un qui rappelle, par exemple, ben tout ce qui s'est passé pendant le printemps érable. Ça, je n'aurais pas de problème avec ça. Mais après ça, c'est de mettre à cab. Puis David, je vais le dire tout cru là, des gens comme ça, règle générale, des militants du cégep, pis là, très à gauche, très clairement avec leur position, sont les premiers à dire, ben faut pas qu'on fasse de généralisation abusive, tu sais. De dire que tous les musulmans, c'est des extrémistes, c'est faux. Tu sais, ça, c'est une généralisation abusive. De dire que ce sont, ben, tout... toutes les généralisations comme ça, on les dénonce à grands cris. Mais de dire que 100% des policiers sont des enfoirés, parce que c'est ça que ça veut dire, à CAB, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une bonne généralisation. Ça, c'est correct. Ça, on va mettre tous les policiers dans le même panier. C'est tous des trous de cul, c'est tous des salauds. Puis qu'ils aillent tous en enfer. Moi, je vois une incohérence crasse, là, puis ça, je trouve ça triste, puis ça discrédite le mouvement au grand complet, à mon avis.
Oui, t'as entièrement raison, et puis même, je vais peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire que la police mérite de se faire critiquer à l'occasion. Je ne fais pas partie du mouvement Defund the Police, loin de là, mais on peut quand même se questionner sur les tout l'argent qui est versé au corps policier, hein, et puis ben là, c'est comme si toute critique finalement qu'on pourrait faire à l'égard de la police, à l'égard du système judiciaire, ben finalement c'est ben la véritable critique, ce serait ACAB finalement, hein, il y aurait pas d'autres critiques. Donc finalement tout ça est aspiré par ACAB, par une position finalement caricaturale que le vrai monde là, ils se disent pas la police je vous emmerde, vous valez rien que moins que rien. Non non, la majorité des gens disent la police elle a un travail à faire, elle a un travail important à faire, ça veut pas dire qu'elle est parfaite pour autant, il faut en discuter de manière un peu posée, mais c'est pas comme ça que la suite étudiante du Cégep du Vieux-Montréal semble le penser et le présenter.
Oui, puis surtout qu'il y en a une imputabilité policière qui est beaucoup plus grande maintenant qu'avant aussi. Là. On a, grâce aux réseaux sociaux, des gens qui filment des interventions policières. Les dernières années, on en a eu là, des policiers, là, une vidéo d'un homme qui est comme en état d'ébriété et qui se fait lancer dans un mur par un policier, je pense que c'est à Québec. Ça a été filmé sur des caméras, puis le policier, on enquête sur lui, là. Puis c'est vrai qu'il y a eu des débordements policiers, puis c'est vrai qu'il y en a encore, puis c'est vrai qu'il y a du profilage racial, puis c'est vrai, puis c'est vrai, puis c'est vrai. Après ça, ça, on peut les critiquer, mais critiquons-les de manière constructive. Tu sais, tous les extrêmes finissent par être mauvais. De juste crier, ah, tous les policiers, c'est des salauds. Ben, c'est pas une critique constructive. Ça ne va pas dans le bon sens. Tu ne vas pas réformer la police en les envoyant tous chier. Non, tu vas réclamer de l'imputabilité, puis c'est ce qu'on est en train de faire dans notre société. Participer au changement, faites juste pas crier une généralisation abusive. Ça, c'est la marque de ceux qui veulent pas voir les enjeux complexes dans un problème. Puis c'est la même chose, on cherche une solution facile. Pis c'est de même dans tous les côtés extrêmes du spectre. Quand un enjeu est trop complexe, on cherche la solution la plus facile. Hey, c'est vrai que c'est dur de commencer à réformer la police à partir de l'école de police, à partir de l'académie, de dénoncer, d'attendre des décisions politiques, d'attendre des projets de loi. C'est vrai que c'est long pis que c'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. C'est pas juste en criant à CISO ou ACAB que tu vas changer la police, malheureusement. Je trouve que ça discrédite tous ceux qui ont des critiques valides, constructives, pis surtout ben, qui valent la peine, honnêtement.
Oui, t'as entièrement raison, c'est ça, c'est-à-dire que faut pas s'imaginer que ceux qui vont améliorer les choses, c'est ceux qui crient à câble. C'est-à-dire que ceux qui vont améliorer les choses, c'est ceux qui vont se mettre le nez véritablement dedans, qui vont chercher des solutions concrètes. Mais c'est comme tu dis, ça prend du temps et même, j'ai envie de dire, est-ce que ça prend tant de temps que ça? C'est-à-dire que je pense qu'on réalise pas à quel point les choses changent quand même vite sur une échelle. Tu sais, sur une échelle historique. En l'espace de 10 ans, les choses ont énormément changé. Justement, les policiers sont plus surveillés, ce qui apporte du bien. Après ça aussi, il peut avoir si tu te fais arrêter par la police et tout de suite tu sors ton téléphone, bon, ça peut peut-être pas nécessairement ouvrir l'intervention de la bonne manière, mais bref. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent très rapidement, globalement pour le mieux par rapport à la police, je pense. Mais bon, faut faire... Donc oui, à nouveau, nuance, réflexion et loin des slogans un peu vides de sens.
Nuance, nuance, nuance. David, merci beaucoup.
Quelle que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Il y a des postes qu'on occupe dans la vie dans lesquels on se doit de donner l'exemple. Par exemple, lorsqu'on est la ministre responsable du Code de la sécurité routière. Une des choses de base à faire serait peut-être de mettre sa ceinture de sécurité. Mais pour la ministre Geneviève Guilbeault, Félix, ça semble optionnel.
Oui, et c'est pour ça que dans le Journal de Montréal ce matin, ma collègue Annabelle Blais s'y attarde avec le titre, ma foi, qui nous fait rigoler un peu. Attachez-la quelqu'un, parce que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ne porte pas toujours sa ceinture de sécurité en voiture. Être ministre, bien sûr... On jouit d'une énorme influence quand on l'est, mais aussi on est face à de grandes responsabilités. Et selon ce que relève ma collègue Annabelle, 5 photos où on voit la ministre sans ceinture ont été publiées au cours des 3 dernières années alors qu'elle était ministre de la Sécurité publique et maintenant titulaire du ministère des Transports. Alors, à une occasion, elle est au volant. 4 autres fois, elle est passagère. Dans tous les cas, évidemment, qu'est-ce qui s'applique? Le fameux CSR, le Code de la sécurité routière. La ministre est responsable du CSR. On sait aussi que la semaine dernière, il y a eu une on pourrait dire, énorme annonce concernant la sécurité routière, parce qu'avec la pandémie, les bilans routiers se sont aggravés. L'an dernier, 2022, pire bilan de la décennie, 392 décès. Or, la semaine dernière, Geneviève Guilbeault a annoncé son plan d'action en sécurité routière. Pardonne-moi. Pour rendre les routes plus sécuritaires. Et là, on publie ces photos-là. J'aime beaucoup l'experte qu'on consultait, Annabelle Blais, qui s'appelle Mireille Lalancette, professeure en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle dit, il ne s'agit pas dans le cas de la ministre Guilbeault ici simplement de montrer le bon exemple. Et là, je te cite, elle dit, ne pas mettre une tuque en hiver, c'est un choix personnel. Porter une ceinture en voiture, c'est obligatoire, c'est non négociable.
Ouais.
Alors, c'est un peu ça. Et je te dirais que même si on sort de la responsabilité, en tout cas ministérielle, même si au sens propre, là, pas sûr que c'est dans le guide de responsabilité ministérielle de mettre sa ceinture, il y a une loi qui le prévoit de toute façon. Alors, il faut se conformer à ces lois-là. Madame Guilbeault, et c'est son choix tout à fait personnel, elle a bien le droit, elle publie beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Ben, ça vient aussi quand tu es ministre avec la même responsabilité, probablement, ou même, moi, je me rappelle comme journaliste, on a fait un reportage à un moment donné sur la sécurité nautique. J'étais dans un bateau, un énorme bateau, je pourrais dire, c'est fameux bateau cigarette de speedboat. On était à quai, j'avais pas ma ceinture de sauvetage alors qu'on était à quai, et je m'en suis fait parler pendant un an sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Alors, tu vois, il faut user d'une grande prudence. Voilà.
Oui, absolument. Au moins, quand on a contacté Mme Guilbeault, elle s'est tout de suite excusée. Elle n'a pas tenté de nier les faits, Félix, parce que, ben, en politique, on dirait que c'est quelque chose qui est revenu quelques fois. Quand même, moi, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est oui. Denis Coderre, hein, ici à Montréal, qui avait son téléphone cellulaire, s'était fait épingler, avait une contravention pour avoir texté au volant. On va réécouter déjà, c'était quoi son excuse à M. Coderre?
Non, j'avais un téléphone au soc. Il y avait un soc, mais le soc a tombé.
Le socle a tombé, Félix. C'était ça, l'explication. Il ramassait son téléphone au même moment où la police est passée à côté. Non, au moins, Mme Guilbeault a eu l'honnêteté, tu sais, d'avouer tout ça puis de pas tenter de rectifier le tir par la suite. Mais c'est sûr quand même que ça... C'est pas très chic, là, pour la ministre qui est censée faire appliquer le code.
Normalement, Alexandre, on s'entend que la ministre Guilbeault a pas mille solutions devant elle, là, sauf celle de s'excuser, vous dire, bon, désolé, je pense que j'y ai pas pensé à quelques reprises, et puis je vais respecter la loi dorénavant. Je veux dire, il n'y a pas pas d'autre chose à dire. Ça rappelle aussi que, de toute façon, tu sais, je veux dire, elle, si elle fait ça, j'imagine qu'en communication politique aussi, elle sait qu'elle va faire en sorte que cette histoire-là ne sera pas diffusée pendant 3 jours et qu'on n'aura pas de suivi avec elle qui dit non, c'est pas arrivé. Je veux dire, c'est arrivé, on voit une photo. Cela dit, les politiciens et leur limousine, entre guillemets, et leur chauffeur, là, ont eu la vie dure, là, au cours des 20 dernières années. Là. Tu te rappelles le Journal de Montréal, en tout cas en 2001, ça fait quand même 20 ans, mais on avait suivi Guy Chevrette. Il avait été capté là, faisant des excès de vitesse jusqu'à 132, 120 dans une zone de 70. Puis là, M. Chevrette, qui avait son franc-parler, dénonçait les mois précédents les conducteurs qui voyaient des limites de vitesse comme une suggestion plutôt qu'une obligation à les respecter. Novembre 2007, on avait suivi Julie Boulet aussi. Après une conférence de presse, 130 dépassements illégaux. Alors, quelques jours plus tôt, il venait de déposer un projet de loi pour serrer la vis contre les excès de vitesse, notamment. Alors tu vois, et une autre chose peut-être au fond de cette histoire-là, tu sais que ces reportages-là précédents ont eu une grande influence sur les fameux chauffeurs. Tu sais que ceux qui assistent les ministres dans leur sécurité personnelle puis conduisent leur voiture, ce sont des constables spéciaux.
Oui.
Ils font partie du syndicat des constables spéciaux du Québec. Ils sont armés. Ils sont chauffeurs aussi. Ils font les deux, donc souvent. Et puis, c'est eux qui conduisent. Et eux, la consigne qu'ils se donnent entre eux, moi, j'en connais plusieurs, c'est maintenant là, que tous ces trucs-là sont sortis. D'abord, la loi, c'est la loi. Fait que 100 km sur l'autoroute, c'est 100 km sur l'autoroute. Puis là, ils ont été en moyenne pression, puis en négociation aussi. Alors là, ils étaient un peu plus zélés là-dessus. Mais la majorité applique avec beaucoup de rigueur, je te dirais, le code de la sécurité routière, parce qu'ils veulent pas justement être ceux sur qui ton bras disons, le blâme ou sur qui sera porté le blâme d'avoir mis le ministre ou la ministre dans l'embarras, en ce cas-ci.
Oui, absolument, absolument. Ils ont un rôle très important. On l'oublie, c'est à la fois les gardes du corps et les chauffeurs, ces constables spéciaux-là. Gros rôle quand même qui est important autour de tout ça. Félix, il y a bien quelque chose qui alimente le cynisme ambiant en politique, règle générale, c'est quand on a des beaux fonds qui sont censés servir l'environnement, qui sont censés aider au Québec à développer des énergies vertes et autres, qui, ben, finalement, manquent encore pour la 122e fois, encore une fois, de transparence. Félix, le fonds vert qui revient dans l'actualité.
Il y a le Strom Spa à Québec qui a pigé 500 000, un demi-million dans le programme du Fonds vert. La CAQ avait promis de resserrer les dépenses de ce fonds-là. Vous savez, ça a servi à plusieurs dépenses totalement incongrues. D'abord, ça doit servir à lutter contre la lutte au changement climatique. Donc, les sommes viennent de la taxe sur le carburant que l'on paie à la pompe. Tu te rappelles, ça avait servi à Air Canada à subventionner un projet d'électrification. Une réserve touristique de Gorée au Gabon. En tout cas, tu sais, ça fait pas n'importe ouais. quoi. Et là... Et là, on voit que le Strom Spa, aussi nouveau lieu de détente qui borde le fleuve sur la promenade Samuel de Champlain, a eu droit à son ouverture à 530 000 $407 en subvention liée à ce programme de conversion et efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et institutionnels. Alors, c'est un clin d'œil. Franchement, je pense pas que ça passe le test, encore une fois.
Ouais, puis ça vaut la peine de s'attarder quand même, hein, des fonds comme ça. On met de l'argent, on encense tout à quoi ça peut servir, mais si on s'y penche, puis on regarde chaque dépense, on commence à chaque fois, on dirait qu'on trouve des anomalies, puis des transactions douteuses. Je trouve ça déplorable parce qu'après ça, ça vient nuire à la réputation d'un fonds comme celui-là. Félix, la PCU, je pensais que c'était quelque chose comme la COVID là, qui devenait un mot honni, banni de notre vocabulaire. On n'en reparlait plus. Mais là, ça revient, il y a encore des troubles avec la perception ou la reperception, la récupération de la PCU. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, 30 secondes en terminant, parce que là, permets-moi d'avoir une position éditoriale plus tranchée
Bien
à
sûr.
Ce sujet. C'est Sylvain Larocque, notre superbe journaliste aux finances au Journal de Montréal, qui nous annonce que le gouvernement fédéral est en train de faire la vie dure à deux Québécois. Deux Québécois qui ont fait preuve de bonne foi parce qu'ils ont remboursé, très vite d'ailleurs, des sommes de PCU qu'ils ont reçues par erreur au début de la pandémie. Alors, évidemment, ces deux personnes-là, ça les fâche énormément. C'est parce qu'ils sont vraiment, se disent-ils, harcelés par le ministère de l'Emploi et du Développement social. Ils se font empêcher, ils se font envoyer des avis de dette. Ils téléphonent à Service Canada pour corriger cette affaire-là en disant « Mais non, mais j'ai payé. » Non, avis de dette. Et là, il leur devait de l'argent pour ça. Le gouvernement s'est remboursé une somme qui ne devait pas se rembourser selon Martin Bélanger, à même sa déclaration de revenus. Bref, en tout cas, je veux juste signaler, en terminant, et là-dessus, que on s'avait fait l'objet d'ailleurs d'une chronique entière avec Richard Martineau, et je m'en offusque toujours. Pendant, au plus fort de la pandémie, quand la PCU était versée de manière presque universelle, tu sais, les fonctionnaires avaient reçu l'ordre. C'était un journaliste du Globe and Mail qui avait publié cette information-là, de ne pas enquêter ou de ne faire aucune différence entre un cas de demande de PCU qui a fait toutes les apparences d'une fraude et un cas normal. Et ça avait juste eu la direction. Faites-vous-en pas. Badrez-vous pas avec ça. C'est pas grave si c'est une fraude. Alors, moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'on traite ces deux personnes-là comme on traite ceux qui l'ont eu complètement illégalement, la PCU? Et c'est toi, j'ai la forte impression que non.
Ouais, c'est un dossier qui ne finit plus de finir, celui de la PCU. Félix, je suis bien content que tu nous le rappelles. Merci beaucoup d'avoir été là.
Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
Je te rappellerai que
1,3 milliard, 44 milliards de dollars.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
C'est le tango des employés de bureau.
tous pleins d'ardeur pour le labeur, très en douceur et sans douleur, c'est le tango des princes du bordereau.
Tout plein d'ardeur pour le labeur, d'accord, mais tout sans douleur, en toute douceur, ça, je suis pas sûr, Yves, parce que d'être honnête avec les employés de Revenu Canada, ça a l'air que c'est pas payant du tout.
En fait, Alexandre, dans la chanson « Les trois ménestrels », se termine en disant « C'est le tango des princes du bordereau qui se prélasse dans les espaces où l'on entasse la paperasse ». Et là, tu sais, le Revenu Canada, là, c'est vraiment la maison des fous, écoute. Rappelle-toi la PCU. Donc, il y avait eu urgence. Puis là, il avait décidé, prépare-toi, là, tu sais, de dépenser 75 milliards en PCU. Et donc là, tout le monde avait des chèques, hein. Puis bon, ils ont été un peu laxistes sur quelques règles. Puis bon, le monde a eu leur chèque. Et rappelle-toi là, à cette époque-là, la règle était pas compliquée, c'est qu'il fallait que tu aies gagné moins de 5 000 $ ou que tu n'avais pas travaillé pendant les 12 derniers mois en 2019. Puis là, tu avais le droit. Mais si tu avais travaillé ou tu avais gagné 5 000 $ de plus, bien évidemment, il faut que tu penses à le rembourser. Et là, ils se sont dit, bien là, tiens, à un moment, ça va arriver. Et là, la vérificatrice générale s'était aperçue qu'il y avait peut-être autour de 5 milliards d'argent qui avait peut-être été donné à des gens qui n'avaient pas de besoin.
Ah ben.
Et là, ils ont envoyé pour 1,2 million de lettres. OK, à des gens qui disaient, ben vous devez nous rembourser. Et la règle au fédéral, c'est que ils t'envoient cet avis-là. Puis là, la question, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un remboursement par compensation. Autrement dit, les sommes que tu leur dois, ben ils vont te le déduire de ton remboursement d'impôt. Ou si tu reçois l'assurance chômage, ils vont te le couper, etc. Mais souvent, c'est fait à partir du moment où c'est clair. Mais là, on a des cas là, de harcèlement de gens, d'honnêtes citoyens. Tu comprends-tu? Et là, c'est vraiment la maison. Des fois, Revenu Canada, les systèmes, ça parle pas. Alors, on a deux cas. Là, tu sais, par exemple, au printemps 2020, il y a un monsieur qui s'appelle M. Bélanger, qui lui, là, tiens-toi bien, il a reçu deux versements de 2 000 $ au lieu d'un seul. Fait qu'en haut, le résident de Québec, il a pris l'initiative de rembourser en trop l'argent qu'il avait eu. Donc, il a fait ça, puis il y a des traces de ça qui a remboursé le fédéral. Le fédéral a pris l'argent. Ben, imagine-toi, il reçoit une lettre du ministère comme quoi il y a un avis de dette de 2 000 $. Et donc, imagine-toi, en plus de l'avis, il devait avoir un remboursement de 1951-65. Ben, ils ont pris son remboursement. Ça fait que ça, c'est un cas. L'autre cas de Julien Cardinal, il y a 20 ans, au printemps 2020, il a reçu le 2 000 $ qu'il n'avait pas le droit. Alors, sa mère a dit, ben écoute, il faut que tu le rembourses. Il paye par Interac, toute l'information. Ben imagine-toi encore aujourd'hui, il reçoit des avis de cotisation. Donc, écoute, c'est comme le système Phoenix. Tu te rappelles, le système Phoenix fédéral, tu as des gens qui reçoivent des chèques de paye puis qui n'ont pas le droit, d'autres qui sont pas payés. Mais là, dans le cas de Revenu Canada, là, on dirait que les systèmes, entre le moment où ils reçoivent l'argent, la question des avis de cotisation, puis les fonctionnaires qui commencent à regarder ça, tu sais, il dit, la dernière fois que j'ai appelé, la dame m'a dit qu'il y avait des agents spéciaux qui s'occupaient de ce dossier-là. Quand tu as des agents spéciaux, ça se peut très bien qu'ils sont en train de regarder ça maintenant, puis tu vas peut-être avoir une réponse dans plusieurs mois. Mais ce qui est intéressant, Alexandre, c'est toujours la même affaire, c'est que ces gens-là, 2 000 $, ça peut être énorme, tu comprends-tu?
Ben oui.
Tu sais, ceux qui gagnent des millions, là, quand même qu'ils sont pas remboursés dans leurs affaires, c'est pas grave. Mais tu sais, les gens qui ont pas beaucoup d'argent, comme ce jeune-là, Julien Cardinal, ou le monsieur qui est à la retraite, tu comprends-tu? 2 000 $, c'est important.
Ben oui.
Et donc, moi, je pense qu'ils doivent faire, c'est, pour ces gens-là, tu sais, quand il y a des cas de dossier comme ça, là, au lieu de se payer par compensation, qui leur laisse l'argent, mais c'est à Revenu Canada de faire son travail, puis de mettre des fonctionnaires à bien regarder leur système puis être capable de... Écoute, ce matin, là, Alexandre, on reçoit toutes sortes de courriels de gens. Il dit, je suis dans la même situation, j'ai reçu 4 000 $. Le gouvernement m'a fait parvenir une lettre indiquant que j'avais reçu 2 000 $ de trop. J'ai fait les remboursements de 2 000 $. Puis là, il m'a envoyé une lettre de quittance. Le fédéral, il a envoyé une lettre de quittance, mais il réclame encore à tous les 3 mois le 2 000 $. Écoute, c'est vraiment la... Écoute, tu sais...
Yeah, okay.
Moi, je me dis, tiens, à l'ère du numérique, comment ça se fait qu'on est encore rendu à, à une situation comme celle-là?
Bah, c'est d'excellentes questions à poser, Yves. Là, t'sais, surtout que c'est les échos des soubresauts qui nous parviennent. On est en 2023, là, en août 2023. Ça s'est donné la PCU il y a maintenant, c'est des années, là, littéralement. La PCU, 2000, ça a été donné.
2020.
2020, ça fait des années maintenant que ça a été donné la PCU. Je comprends que ça a passé très vite tout ça pour tout le monde, mais ça fait des années que la PCU, c'est quelque chose qui est censé être terminé, tu sais, qui est plus censé être dans le vocabulaire en ce moment. Puis déjà, qu'il y avait beaucoup de questions à se poser sur la manière dont ça a été distribué, tout ça, la PCU. Mais là, que ça continue encore d'être un fiasco des mois et des années après, ben c'est très clairement déplorable. Il y a une boutique, Yves, qui a fait les frais, malheureusement, de cette économie, qui fait faillite en ce moment, mais le problème, c'est qu'il y a des clients, eux, qui sont laissés de côté.
En fait, Alexandre, dans tous les cas de faillite, là, c'est toujours le consommateur qui finit par payer. Parce que tu sais que les consommateurs, là, c'est pas les créanciers garantis.
Non.
Quand il y a des faillites, là, c'est les banques qui se payent en premier. Alors là, tu as une entreprise de produits de bébés populaire au Québec qui est en ligne. Écoute, les parents québécois, là, ils sont... écoute, je regarde l'achalandage sur ce texte-là actuellement, ce journal de Montréal. C'est vraiment très, très populaire. Et donc... imagine-toi, déjà le 9 août dernier, la boutique avait engagé des influenceurs pour faire la promotion, pour inciter les gens à acheter des produits sur Facebook. Il y a des gens qui ont acheté des produits et tout ça. Imagine-toi, quelques jours plus tard, ils annoncent leur faillite complète. Et donc, là, évidemment, les gens se retrouvent sans le produit, sans remboursement. Et quand on parle de plus que 1000 clients, qui doivent être normalement remboursés. Donc, la boutique Agatha Boutique ou Agatha Maternité, là, qui a été fondée par deux personnes qui s'appellent André Malépar et Agathe O'Donoghue, un couple d'entrepreneurs qui avait parti cette boutique-là dans Mirabel, puis qui ils ont fait des extensions sur l'île à Mont-Royal, puis après ça, ils ont été beaucoup en ligne. Ben là, l'entreprise est en difficulté. Écoute, la valeur totale de la dette, là, c'est presque 5 millions de dollars contre des actifs de 556 000 dollars. Donc, le manque à gagner est presque 4 millions. Donc, tu sais, par exemple, Marie-Lou Chartrand, là, d'Amosc, compte parmi les créanciers non garantis. Elle a acheté un siège de bébé en ligne à 459$ le 15 juin dernier. Puis là, elle avait toujours pas reçu le 16 août. Fait qu'elle a appelé, puis là, c'est aperçu qu'effectivement, l'entreprise avait faillite. Mais ce qui est intéressant, Alexandre, puis je pense qu'on peut se servir de cet exemple-là, il y a là, tu sais, le fameux remboursement de l'achat en ligne, ce qu'on appelle la rétrofacturation.
Ouais.
Si tu as payé par carte de crédit, puis tu n'as pas reçu le produit, normalement, les émetteurs de carte de crédit vont te le rembourser. Fait que c'est peut-être mais si tu as payé comptant, si tu as payé par autre mode, là, il y a des bonnes chances que tu ne vois jamais la couleur de ton argent. Donc, la loi, c'est très clair. Si le client a payé sa carte avec sa carte et n'a pas reçu le produit, il peut obtenir une rétrofacturation de son institution financière. Nous soulignent les gens de l'Office de la protection du consommateur. Une faillite qui se rajoute à toutes les faillites qu'on a vues récemment et pour lesquelles les consommateurs se retrouvent évidemment à l'eau avec des produits qu'ils ont achetés puis ils n'ont pas eu la marchandise. Oui, ils verront jamais la couleur de leur argent.
Ouais, c'est triste, surtout que c'est une entreprise quand même québécoise aussi, des produits locaux, on en parle, on veut que les gens achètent des produits bébés comme ça, pas sur Amazon, puis encouragent des boutiques locales, mais malgré tout, ça reste difficile, peu importe là dans l'économie actuelle pour des entreprises comme celle-là. Yves, tu vas répondre à une grosse question pour moi ce matin, je suis tellement content. Tout d'un coup, là, que j'ouvre mon tiroir chez nous en rentrant tantôt, que je me trouve un 50 000 $ de côté, là. Puis qu'enfin, après toutes nos chroniques sur l'habitation puis les jeunes, Yves, je décide de me lancer, je me dis « bon, ça y est, c'est là, j'achète une propriété ». Est-ce que c'est le bon moment de le faire ou je devrais attendre?
En fait, Christian Larochelle, qui est notre chroniqueur immobilier, là, reçoit beaucoup de questions. Et là, il y a justement un couple qui a envoyé une question. Ils ont dit, on a 50 000 $ on compte acheter une maison éventuellement, mais on se demande, est-ce que ce serait mieux de mettre l'argent, mettons, quelque part, puis le faire fructifier puis attendre, ou commencer à le mettre? Et Ghislain a fait le travail. Donc, si tu places 50 000 et puis tu le déposes dans un certificat de placement garanti pour 5 ans à 4,35, là. Puis là, après ça, évidemment, quand tu le retires, tu vas payer au moins ton taux marginal d'impôt. Tu vas te retrouver avec un fonds de 61 000 $. Tu comprends-tu? De ton 50 000. Ça, c'est dans 5 ans. Maintenant, si tu décides d'acheter, il a fait trois scénarios d'acheter une propriété à 400 000 initiale avec une mise de fonds. Il y a trois scénarios. Achat immédiat à 50 000 ou un achat dans 5 ans avec une augmentation des valeurs de 3 % des maisons ou un achat dans 5 ans avec une augmentation des valeurs de 5 % des maisons.
Ouais.
Et c'est sûr que si tu attends, c'est clair que tu vas payer pas mal d'intérêts sur 5 ans dans si tu achètes beaucoup plus tard. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, pour éviter de payer plus d'intérêts, OK, ben peut-être que ça vaudrait la peine de prendre ton 50 000. Ben évidemment, tu vas, si tu as 50 000, c'est ta psy, tu vas être obligé de payer la prime de la SCHL, hein, qui est un pourcentage parce que tu mets pas 20 % là, avec 50 000. Mais il en demeure pas moins que tu vas peut-être être gagnant et payer moins d'intérêts sur la période si effectivement les valeurs des maisons ont augmenté de 3 % ou de 5 % Donc, une bonne chronique qui permet aux gens de voir est-ce que ça vaut la peine de l'acheter maintenant. Évidemment, tu sais très bien que, bon, avec les taux d'intérêt plus élevés, maintenant, il y a eu moins de transactions. Il y a encore des propriétés disponibles. Les prix des maisons n'ont pas augmenté de façon significative, même dans certains endroits, a baissé. Ça fait que c'est peut-être le moment de commencer à regarder si tu as 50 000. Mais si tu ne l'as pas 50 000, ben oublie ça, tu n'achètes pas de maison puis tu loues encore.
Je vais aller gratter mes fonds de tiroir rendus à la maison, Yves. Je te reviendrai avec le résultat final, m'a pilé mes cents puis mes piastres, m'a voir si c'est suffisant quand même là, pour m'acheter quelque chose. Mais sinon, qu'est-ce que je vais faire, Yves? Ben, je vais continuer à travailler fort au bureau. Hein? Pas le choix. Yves Daou, merci.
Salut Alexandre.
Tous pleins d'ardeur pour le labeur, très en douceur et sans douleur, c'est le tango des princes du bordereau qui se prélassent dans les espaces où l'on entasse la paperasse.
Alexandre Morinville-Ouellet. Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
Un cas judiciaire attire particulièrement l'attention en ce moment pour son caractère assez inusité, là. On va dire ça comme ça. Il y a un homme, un Montréalais, qui a fini par être acquitté sur toute la ligne dans un conflit de voisinage après avoir fait un doigt d'honneur, hein, un finger, un fuck you, dépendamment comment vous appelez tout ça, le majeur bien dressé, à un voisin, s'était fait poursuivre, là, puis pendant des années a dû se défendre autour de tout ça pour être finalement acquitté parce que selon le juge, mais de faire un doigt d'honneur comme ça, ben c'est un droit divin. C'est un droit acquis pour à peu près tout le monde. Et là, ben contre-offensive de M. Neil Epstein, qui est cet homme qui a été innocenté, lui poursuit à son tour à la fois le DPCP, la police de Montréal, SPVM, et le voisin en question. Pour en parler avec nous, Maître Marc-André Landry est associé d'LCM L'Avocat. C'est lui qui dirige justement cette poursuite au nom de M. Epstein. Bonjour Maître Landry.
Bonjour, M. Morinville.
Résumez-nous donc l'histoire depuis les tout débuts, là, ce cas dans lequel il vient d'être acquitté. C'était quoi exactement la chicane?
Ben, écoutez, c'est une petite rue tranquille de l'ouest de l'île de Montréal. Des voisins qui se promènent avec leurs enfants, jouent dans la rue et une famille particulière qui ne semble pas apprécier le bon voisinage et toute la fantaisie banlieusarde. Écoutez, ça faisait des mois, voire des années que ça durait, des véhicules de cette famille-là qui frôlent les enfants, qui passent à toute vitesse alors que les gens jouent dans la rue, etc. Bref, comme le juge de la Cour du Québec l'a dit, qui ont une conduite dangereuse. Tout ça a culminé par même des événements de bousculade. Et un jour, cette famille-là, un des membres de la famille, a fait une plainte à la police accusant M. Epstein de lui avoir fait un signe de coupe-gorge, donc l'accusé de menace de mort. Cela a mené une arrestation le 18 mai 2021. Il faut comprendre que notre client, là, on parle typique famille banlieusarde, c'est un enseignant dans un cégep de l'île de Montréal. Deux jeunes filles en plein jour devant ses voisins, devant sa femme, devant ses enfants, devant ses deux jeunes filles, se fait arrêter. Les policiers seront présents pendant presque 2 heures. Et là, s'ensuit une série d'événements aussi inusités les uns que les autres dans le cadre d'une enquête policière. Monsieur sera effectivement accusé de menace de mort. Et puis, malgré qu'il n'y avait pas de preuves directes, mais au contraire, Effectivement, notre client a pu faire un finger à son voisin. Écoutez, je pense qu'on en serait tous arrivés là, peut-être même pas mal plus que ça, quand on se fait frôler par une voiture à toute vitesse avec un enfant en bas de 5 ans. Moi, je peux vous dire, comme père de 3 enfants, c'est le genre de comportement qui pourrait mener à plus qu'un finger, bien candidement. Il y avait même des lettres des voisins qui soulignaient à quel point c'était cette famille-là qui était problématique et qui l'avait été. Il y avait des vidéos qui démontraient qu'il ne s'était rien passé de tout ça. Bref, on n'a même pas offert le droit à l'avocat à notre client, ce qui est de base. Vous le savez, là, je veux dire, c'est dans tous les films. Je veux dire, même si t'es pas allé à l'école de police, je veux dire, écoute, n'importe quelle émission de police ou un film policier, ça se passe dans les premières minutes d'une arrestation. Ça a même pas été offert à notre client. Et puis, vous savez, les policiers ont même rencontré la famille en question. Et dans leur rapport, on parle d'hyperbolisme, de déformation des propos des policiers. Bref, avec une preuve contradictoire au mieux, sinon carrément disculpatoire, le DPCP a décidé de déposer des accusations plus de 2 ans plus tard, moins de 2 ans, pardonnez-moi, c'est en février 2023, ça a amené au jugement que vous connaissez, dans lequel le juge Galiatsatos finit par exprimer son entier découragement envers ce dossier-là. Le dossier, la poursuite criminelle a été complètement rejetée. C'est pas tout à fait ça qui se passe techniquement, mais ici, il dit « I would throw it out of the window ». Je le jetterais par la fenêtre tellement c'est rien. Ouais. Et en fait, que c'est plutôt la famille qui aurait dû être accusée de conduite dangereuse, etc., etc. Donc, c'est une situation qui choque l'esprit de quiconque en prend connaissance. C'est pour ça qu'avec une équipe là extraordinaire, dont ma collègue Geneviève Godet, on a accepté d'aider M. Epstein pour qu'il soit ultimement indemnisé. Parce que quand tu es acquitté comme ça, tu t'en vas chez vous avec ton petit bonheur. S'il t'en reste, c'est tout, là. Mais tu as payé tes avocats, tu as vécu 2 ans d'enfer, tu as été ostracisé parce qu'il y a des stigmates. Imaginez-vous, la police passe 2 heures chez vous.
Oui.
Dans une petite rue tranquille de banlieue.
On se comprend bien là-dessus, Maître Landry. Puis c'est pour ça que pour vous, dans cette histoire-là, on sait, ni plus ni moins, là, du côté de cette famille-là en question, servi de la justice comme une arme. Là. On a engorgé, si on veut, les tribunaux. On a poussé au maximum ce qu'on pouvait autour d'une cause qui était un peu bidon. Puis c'est pour ça aussi que vous impliquez le DPCP puis le SPVM, c'est ça?
Absolument. C'est parce que c'est une question des remparts. Vous savez, on est en démocratie, il y a des remparts. Puis, tu sais, la première chose, c'est d'être éduqué, d'être un bon citoyen. Malheureusement, ça marche pas toujours comme on le souhaiterait, mais dans la majorité des cas, ça fonctionne. Ensuite, il y a les policiers qui, dans la quasi-totalité des cas, font leur travail de façon exemplaire. Puis, il faut les remercier pour ça, servent, protègent, vont s'assurer de désenfler des situations, etc. Mais quand il y a matière à apporter des accusations, font une enquête qui habituellement est robuste pour amener tous les éléments de preuve nécessaires. Puis ensuite, autre rempart, ce sont les avocats du DPCP qui prennent le dossier policier, qui l'analysent, qui disent, là, on a une bonne cause avec le fardeau du hors de tout doute raisonnable.
Ouais.
Donc, quand le DPCP se présente à la cour, c'est parce qu'il a fait son travail. Ici, on dirait que c'est un cas où tous les remparts sont tombés. Il n'y a rien qui a fonctionné. La chaîne a débarqué. Et là, on se retrouve, heureusement, devant le juge. Évidemment, le juge a dû transmettre des commentaires assez cinglants parce que la preuve était contradictoire. Les témoignages se tenaient pas. Écoutez, il n'y avait rien. Ultimement, la couronne a suggéré un acquittement. Puis là, j'entends tout de suite des collègues vont me dire « Ouais, mais tu sais, ultimement, on a suggéré un acquittement. » Hey, ça fait 2 ans, là.
Ouais.
Il y a 2 ans que ce gars-là vit en fer, qui a été humilié devant ses enfants, qui ne sait plus en qui faire confiance, qui n'a pas pu prendre de vacances avec ses enfants parce qu'il faut qu'il paye des avocats pour se défendre d'une accusation aussi bidon. Imaginez-vous, vous êtes prof, un des avantages, c'est quand même d'avoir des vacances l'été, puis lui, il n'est pas capable d'en profiter parce qu'il faut qu'il paye son avocat criminaliste. C'est un peu ironique, là. Ben, en fait, c'est plus qu'ironique, c'est complètement triste. Donc, c'est comme si tout le système avait débarqué dans ce cas-là. Puis, en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu te ben, rendu au bout de ça, là, je m'imagine mon collègue avocat de la couronne qui revient de la cour après sa journée d'audition. Il me semble que tu dis, écoute, ben, tu sais, je vais aller voir mon boss. Puis tu dis, boss, on l'a échappé. Ouais. Je pense qu'on devrait faire quelque chose ici.
Ouais.
Non, pour ça, ça s'est pas passé. Là, le jugement sort, et le journal publie un article. Ben, tu sais, le boss, là, puis le chef de police, puis tout ce monde-là, ils l'ont bien lu, cet article-là. Ils disent, ben, tu sais, ils vont prendre le téléphone, ils vont dire, Monsieur Epstein, on peut-tu au moins vous inviter à luncher, tu sais? Ouais. Non, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça qui se passe. On les met en demeure, parce que, en tout cas, il y a des enjeux de prescription, parce que avec un corps municipal, c'est toujours très court, c'est 6 mois. À peine de réponse. Je te dis, ça va prendre quoi pour que le système fasse la bonne affaire? Quand est-ce que le système va se réveiller et dire, écoute, on l'a échappé, maintenant, ben, on va indemniser quelqu'un qui a été traîné dans la boue, qui a vécu l'enfer,
ouais,
pour rien.
Pis,
mais ça, ça se passe pas.
Oui, puis là-dessus, Maître Landry aussi, là, il y a un facteur qui vient s'ajouter à tout ça, c'est celui que les tribunaux en ce moment au Québec sont engorgés. Hein, on ne cesse de dire que les délais sont trop longs, qu'il y a des causes qui devraient pas être entendues, ni plus ni moins, puis qui viennent ralentir comme ça le système. J'imagine que ça va jouer en votre faveur aussi peut-être là, avec le montant que vous réclamez, qui est juste, vous rappelez exactement là, combien vous réclamez aux différents corps ici.
Écoutez, on réclame 117 000 pour tous les dommages moraux, les frais d'avocat, puis il y a des dommages punitifs là-dedans, parce que un droit fondamental, c'est le droit à l'avocat, ça a été complètement bafoué. Le droit à la réputation aussi, c'est un droit fondamental. Donc, c'est pas énorme, vous savez. Puis si on était aux États-Unis, là, on serait ailleurs. Là. On serait dans des stratosphères, alors que là, on est au rôle plancher des pâquerettes. Pas plancher des vaches, j'ai fait un péronisme. Mais, tu sais, on est juste là. Puis oui, les délais judiciaires, ben en fait, ce qui est étonnant, c'est que malgré l'arrêt Jordan, les avocats du DPCP soient allés s'occuper d'une affaire aussi bénigne que celle-là, sans preuve. Me semble qu'ils ont d'autres choses à traiter. Le problème, c'est qu'au civil, c'est très long. Et ce que je déplore, c'est qu'on va demander à M. Epstein de continuer ce cauchemar-là, pendant le temps des procédures, il y aura des interrogatoires possiblement, il y aura ça, alors qu'il y a un jugement qui n'a pas été porté en appel, qui est très clair quant à la faute, la négligence de tous les acteurs, qui est là.
Ouais, ça va.
Puis on va nous demander de procéder. Écoutez, j'ai encore un peu confiance, puis je me dis un jour, quelqu'un nous appellera pour discuter, espérons-le. Notre client est un homme fort raisonnable. Des fois, j'ai envie de dire trop raisonnable, mais ça serait vraiment déplorable qu'on doive suivre le processus civil qui peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 ans des fois,
ouais,
pour aboutir à un procès.
Ouais, on s'entend bien là-dessus, puis ça va être clairement un cas qui va être suivi, mais s'il y a bien quelque chose qui a frappé l'esprit aussi dans cette histoire-là, ben c'est les propos du juge, que ce soit entendu pour tous les Canadiens et Canadiennes, c'est un droit divin, semble-t-il, de faire un droit d'honneur à quelqu'un, c'est dans la charte, puis on peut pas vous enlever ça, peu importe. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir résumé ce cas-là avec nous. Maître Marc-André Landry, je rappelle, vous représentiez monsieur, et vous représentez toujours monsieur Neil Epstein dans cette histoire-là. Merci.
Merci, monsieur Morinville. Merci à votre équipe. Au revoir.
Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre Morinville-Ouellet.
On surveille en ce moment cet ouragan qui vient de toucher, là, il y a quelques dizaines de minutes de ça, là, l'ouragan Idalia, qui a touché les côtes de la Floride, a été rétrogradé en ouragan de catégorie 3. Là, c'était un ouragan de catégorie 4 jusqu'à il y a quelques heures de ça à peine, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment dangereux, semble-t-il, pour les résidents de la Floride. Pour en parler avec nous, Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global. Bonjour, Monsieur Beaubois.
Bonjour.
Tempête inquiétante, ça, pour les résidents de la Floride?
Oui, assurément. C'est sûr qu'avec des vents aussi importants, et même s'ils sont en diminution, hein, parce que c'est vrai que la bonne nouvelle pour les gens de la région, c'est qu'en 2 heures, Les vents sont passés de 209 km à l'heure à 193. Et je peux vous dire que cette différence, c'est déjà très, très important. C'est certain que là, maintenant, l'ouragan se trouve sur la terre et donc va diminuer dans les prochaines heures. Les vents vont diminuer relativement rapidement. Mais au-delà des vents, il faut toujours tenir compte aussi de l'onde de tempête, des quantités de précipitations qui sont importantes. On était il y a à peu près une heure et demie à 58 mm d'eau par heure. Donc ce sont des quantités qui sont quand même relativement importantes et qui viennent évidemment aggraver la situation.
Oui, absolument. On parle de 30 cm de pluie qui pourrait tomber, là, pas des millimètres, 30 cm de pluie qui pourrait tomber par endroit. On parle beaucoup aussi, là, du côté des autorités, du phénomène de submersion côtière, donc d'espèce de montée des eaux. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ce sont des vagues en fait qui se forment et qui sont en fait il faut savoir que quand un ouragan se trouve sur l'eau, d'abord il faut pas oublier qu'il faut de l'eau relativement chaude, et en l'occurrence pour l'instant dans le Golfe on a des températures de 31 degrés pour l'eau, donc c'est vraiment un carburant tout à fait parfait pour le développement de ce type de structure. Et puis l'ouragan en fait il a tendance à lever l'eau, et donc on a des vagues importantes qui arrive sur le bord de mer. C'est évident que ce phénomène concerne vraiment toute la région qui se trouve vraiment sur le bord de mer. Dès qu'on va entrer à l'intérieur du pays, on n'aura plus ce phénomène, d'autant que pour rappel aussi, cet ouragan, eh bien, en se décalant sur la terre, on estime déjà qu'aujourd'hui, vers 14 heures, les vents seront autour des 150 km à l'heure. Ça reste encore relativement important. Et puis, pour la fin de la journée, on devrait être aux alentours de 80 à 90 km à l'heure.
Là, on a eu des ordres d'évacuation pour certains résidents de la côte, là, parce qu'on craignait bien évidemment le pire pour ces gens-là. Ceux qui se trouvent pas dans les zones d'évacuation, mais qui sont quand même sur le passage, le trajet, si on veut, d'Idalia, de cet ouragan-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est conseillé quand on a un ouragan comme ça, force 3, qui fonce directement vers chez nous?
Mais je suppose que c'est vrai que la Floride, c'est quand même une région qui a l'habitude de recevoir ce type de phénomène météo, même si le Nord-Ouest, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Hein, ces phénomènes se passent plutôt dans le Sud. Mais c'est certain qu'ils doivent, je suppose, sécuriser leur maison, mettre, on le voit souvent lors d'images, juste avant ce type de phénomène, mettre des planches de bois devant les fenêtres pour qu'il n'y ait pas de débris qui viennent briser les vitres, ou en tout cas qui viennent trop endommager les maisons. Mais vous imaginez bien qu'avec des vents autour de 200 km à l'heure, les dégâts vont être relativement importants, des arbres qui s'arrachent, l'électricité qui sera probablement coupée. Donc c'est anticiper ce type de choses avec probablement des génératrices de réserve pour pouvoir, en fait, ce sont les heures qui suivent, hein, qu'il faut pouvoir continuer à vivre ou à survivre. Et donc c'est certain que c'est important d'avoir de s'être préparé, mais c'est certain aussi que les autorités et la population, ayant une certaine habitude, ils ont les bons réflexes pour se préparer à ce type de phénomène aux ouragans.
Ce qui peut sembler un peu ironique, M. Beaubois, c'est qu'aux États-Unis, on a un gouverneur, M. DeSantis, en course présidentielle, qui ne reconnaît pas vraiment l'impact des changements climatiques, ou du moins ne reconnaît pas que c'est causé par les humains. Pourtant, des phénomènes météo comme ceux-là, des ouragans, il y a un lien clair à faire entre les changements climatiques, puis l'intensification, puis le dénombrement plus... On en a de plus en plus de ces phénomènes-là, n'est-ce pas?
Ben, ça dépend. Ceci dit, ça dépend quand même des saisons. C'est sûr que des ouragans, il y en a chaque année. C'est pas vraiment nouveau. Mais ce qui est nouveau, ce sont leur intensité et leur fréquence. En effet, on a l'impression que chaque saison, on se dit tiens, on a eu une année exceptionnelle avec un peu plus d'ouragans. Puis l'année suivante, c'est encore une année exceptionnelle parce qu'on a encore un peu plus d'ouragans. Donc c'est certain qu'il y a quand même des signes qui démontre que le changement climatique est là, que ce soit en Floride, que ce soit avec les ouragans ou même dans nos régions, on le voit aussi avec une évolution du climat. Donc c'est certain que ce sont des zones, ce sont des phénomènes, et quand on parle du changement climatique, souvent on a l'impression de se dire oh bah 2 degrés de plus en moyenne, c'est pas bien grave, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements climatiques sont caractérisés quand même souvent par une augmentation des phénomènes extrêmes et une aggravation de ceux-ci.
Ouais, puis c'est ce qu'on observe en ce moment, puis qu'on a observé même ici là, puis ailleurs un peu partout dans le monde là, depuis le début de l'été. Vous l'avez dit, l'ouragan va continuer à perdre un peu de sa puissance le temps qu'il va être au-dessus de la Terre. Par la suite, il va continuer de se propager aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'ensuit lorsqu'un ouragan continue de diminuer comme ça? On va encore avoir droit à de la pluie, des grands vents quand même pour d'autres États?
Oui, ben en remontant vers la Caroline du Sud, oui, il perd au niveau de la force du vent, il sera aux alentours de 100 km à l'heure. Ce sont des vents, je dirais, c'est une bonne tempête. Hein. Si on a des auditeurs qui nous écoutent du côté des îles de la Madeleine, ils doivent se dire, ok, bon, ben 100 km/h, c'est pas bien grave, on a ça régulièrement. Tout ça pour dire que oui, il perd, tant qu'il reste en fait sur la Terre, c'est sûr qu'il va perdre en force. Il s'éloigne aussi des tropiques, donc le mouvement rotatif se ralentit petit à petit aussi, et donc il devrait en fait revenir sur l'océan à hauteur du sud de la Caroline du Nord. Donc à ce moment-là, ce serait vers la journée de demain, vers 14h, et là les vents seront inférieurs aux 100 km à l'heure, et à ce moment-là, ce système-là va diminuer petit à petit. Il a tendance d'ailleurs, sur les analyses de trajectoire, il a tendance à repartir un peu vers le sud, mais il va mourir tout seul au milieu de l'océan. On prévoit une fin vers le lundi 4 septembre, avec des vents qui seraient aux alentours de 80 km/h.
Ça va être à suivre en tout cas, dans tous les cas, parce que quand ça frappe la Floride, ben ça concerne toujours un peu le Québec, puisqu'on a beaucoup de nos concitoyens qui finissent par se rendre dans l'État, le Sunshine State, comme ils l'appellent, où le soleil brillera pas beaucoup, malheureusement. Aujourd'hui, Jean-Charles Beaubois, vous êtes président de Météo Global. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous. Au revoir.
C'est ce qui conclut cet épisode aujourd'hui. Demain, c'est déjà la dernière de la saison, le dernier épisode, malheureusement ou heureusement, parce que la programmation d'automne, elle, sera palpitante. Merci beaucoup à Jean-François à la console, Charlotte Duquette à la recherche. Je vous remercie, vous, d'avoir été là. On se retrouve demain, prochain épisode.
Cube Radio.